Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai mon avis là-dessus, mais j'ai, c'est pas ce qui m'intéresse.
Mais il faut pas non plus oublier d'où on arrive. Il faut garder les pieds sur les épaules, surtout.
C'est fini. Bon, va à la Fashion Week.
Redescends.
Il y a les championnats du monde de poker en juillet. Je l'emmène avec moi. C'est voyage bon. En classe éco avec moi. On va jouer au poker ensemble.
Jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit et demi. En effet, ce soir, on pousse l'after d'une demi-heure pour prendre le temps d'analyser les matchs de Ligue 1 du soir. Nous sommes sur RMC, nous sommes sur la chaîne YouTube de l'after, after-foot. L'after, vous le savez, votre espace de liberté. À vous, les supporters et acteurs du monde du foot, le 32-16 est ouvert. Supporters marseillais, niçois, monégasques, lillois, parisiens, l'orientés, Daniel Riolo est là pour vous accueillir.
Bonsoir les
salut,
amis.
Daniel. Et Stéphane Guy avec nous également ce soir. Salut Stéphane.
Citoyen, bonsoir.
Au programme, évidemment, on a l'analyse des matchs de Ligue 1 de ce mercredi et toute l'actu du jour. Lorient-Paris, Paris qui gagne à Lorient 4-1. L'OM et Nice qui font égalité 2-2. Monaco qui bat Lille 1-0. Il y avait également des rencontres internationales ce soir. Elles ne sont pas toutes terminées. On suit l'Atalanta. Bien sûr, de près, l'Atalanta qui est sur le point de se qualifier pour la finale de la Coupe d'Italie. Figurez-vous, il mène 4-1 face à la Fiorentina en match retour.
L'Atalanta, c'est une équipe qui n'a pas de titre. Il serait temps que leur très très belle période Gasperini, qui a commencé, on se souvient quand ils font le quart contre le PSG en 2020, tous les beaux matchs en Coupe d'Europe, les belles saisons, ce serait bien qu'ils aient une récompense.
Voilà, il y a la Coupe d'Europe.
Ça y est, c'est fait.
Voilà, il y a la Coupe d'Europe et, le,
et la Coupe d'Italie.
La finale,
c'est Lazio.
À choisir, les sondeurs, la Coupe d'Italie. La Juve.
Moi, je parlais vraiment de la Coupe d'Italie. Ouais. Pour le coup, j'avais même pas fait le lien avec l'Europa League, où bah c'est vrai, en plus, c'est tout con, mais c'est dans une semaine, mais je n'y pensais pas. Je pensais à la Coupe d'Italie.
Oh, Daniel, allez.
Non, j'étais dans la demi de ce soir et ils font finale contre la Juve.
Et puis, il y avait les matchs de Première Ligue aussi ce soir. Sachez que Liverpool a perdu à Everton 2-0 dans un derby bien connu. Et puis, United a battu Sheffield 4-2 ce soir.
C'est fini pour le titre, pour Liverpool.
Exactement.
Oui.
32-16, direct studio, on vous attend pour parler Ligue 1 tout de suite, juste après les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Daniel, de quoi veux-tu parler ce soir après ces matchs?
Oh, on va prendre les matchs dans l'ordre, puisqu'on va parler des 3, la victoire tranquille du PSG, avec visiblement titre retardé.
Et oui.
Quelques jours.
Quel suspense.
Effectivement. Bah, Monaco, on l'a dit depuis deux jours, en cas de victoire ce soir, c'était le break et c'était la Ligue des Champions. Monaco, depuis qu'ils sont dirigés par Damien Perrinel, voilà, c'est tout droit. C'est tout droit. Depuis qu'il est sur le banc.
Invaincu, Damien.
Depuis qu'il est sur le banc, toutes les. Non, mais en plus, si on déconne, c'est pas complètement pour blaguer que je dis ça. Hein. Depuis qu'il est assis sur le banc.
Parce qu'une seule fois, on n'a pas été sérieux concernant Damien.
De toute façon, on le sait depuis toujours qu'un avenir prometteur s'offrait à lui. Ça se confirme, il est sur le banc en tant qu'adjoint depuis qu'il est arrivé sur le banc. Monaco, qui était irrégulier, qui marchait de travers, marche tout droit et va finir en Ligue des Champions. Et puis le dernier match où Marseille, évidemment, à 10 contre 11, c'est un super résultat, mais bon, ça ne les fait pas avancer au classement, donc ils sont toujours un peu à la traîne. Et Nice, qui à 11 contre 10, n'arrive même pas à en profiter, ils font une deuxième mi-temps assez décevante, où ils sauvent le match nul, mais finalement c'est un match un peu bâtard où je crois qu'aucune des deux équipes ne va réellement être contente. Il y avait quand même cette impression, puisque l'OM a la Coupe d'Europe et c'est un club qui attire plus l'attention, et c'est de lui dont on va parler. Moi, je sais pas comment ils vont finir la saison. Et chaque match, on a l'impression qu'ils sont à l'arrache. Il n'y a rien d'autre que de la volonté en ce moment.
Oui, mais enfin bon,
c'est 3 points voilà. D'abord.
Ce sera mon troisième point à l'OM. Mon premier point, c'est Monaco, bien sûr. Monaco qui est le grand gagnant du soir, qui est quasiment assuré de terminer dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1, ce qui était à un moment donné de la saison pas si évident que cela. Donc ils seront et ils vont revenir en Ligue des Champions 5 ans après. Ça fait comme 5 ans qu'on n'a pas vu le AS Monaco en Ligue des Champions. Ça paraît incroyable, mais c'est comme ça. Le deuxième point, bon, après le PSG, ben voilà, c'est la routine, mais c'est une belle routine et c'est une équipe qui a l'air de prendre du plaisir, quelle que soit sa configuration en ce moment, puis qui a un peu tous les faits de jeu favorables en ce moment avec elle. Ça roule, ça sourit, c'est magnifique. Et puis le troisième point, c'est l'OM quand même, parce que Daniel, c'est vrai que ça sert pas à grand chose, et puis ils vont peut-être poussivement arracher une sixième place, septième place, mais dur, n'empêche que à tous les matchs, on se dit ils vont craquer sur le pneu, et ils craquent pas, ils craquent,
c'est vrai.
Ils ont quand même un esprit, et cette occasion extraordinaire de Aubameyang, quand même, cette barre transversale.
Mais c'est pour ça que j'étais partagé, parce que je disais, en même temps, t'as envie de leur dire bravo.
Démarrons sur le match Marseille-Nice, justement.
Moi, j'ai plutôt envie de leur dire bravo, de la générosité, c'est formidable, mais en même temps, t'es bien obligé de constater que tu sais, à un moment sur le pneu, t'as plus de gomme. Jusqu'où tu peux aller comme ça? À un moment, ça s'arrête.
Oui, ouais. il reste 4 matchs, 5 matchs, un problème.
4.
Plus la Coupe d'Europe. Oui. Plus la Coupe d'Europe, Gilbert. Donc,
minimum 6.
Ouais, mais.
Il reste 7.
Ouais.
Et mais c'est. Mais
bah, ils ont des joueurs. Là, et toi, quand quand même t'es l'OM et que tu fais rentrer Unai, et je cherche le deuxième, là, qui est rentré en fin de match. Tu dis quand même finalement cette équipe
il y a
Klose qui revient ce soir, ça commence à se remplumer un petit peu quoi.
Oui, ouais. Effectivement. Mmh. Même s'il y a toujours des blessés, Onana qui est rentré en fin de match. Ouais, Jean Onana.
Oui, bon. Enfin bon, c'est un joueur qui
parfois. Je pense que c'est pour ça que tu t'en souvenais pas.
Qui peut parfois être titulaire.
Onana, il joue pas la Coupe d'Europe, il est pas sur la liste.
Il a marqué dimanche contre Toulouse, enfin tu vois, Il y a quand même des joueurs qui sont assez faibles hein, dans cette équipe. Et c'est pour ça que c'est presque admirable.
Oui, mais c'est une équipe. Moi, je pensais qu'elle allait rompre. Avant. Je trouve que je sais pas comment Gassé gère ça dans le vestiaire avec ses adjoints. Comment ils arrivent à remobiliser les troupes, à les maintenir comme ça. Mais il y a quand même quelque chose un peu d'héroïque là-dedans.
Ah, Stéphane, ils sont huitièmes. Hein.
Ouais, ils sont huitièmes.
Je sais pas s'il y a d'héroïque là-dedans. Ils sont huitièmes. Hein.
Oui, mais tu prends la semaine qui vient de vivre.
Évidemment, le côté, on est en demi-finale de l'Europa League après le match.
La dernière minute à Toulouse, là, 10 contre 11.
Faut faire attention à ces impressions. Parce que si tu me dis, ils vont faire la finale de l'Europa League et ils gagnent tout, le côté héroïque, alors là, ça devient carrément chevaleresque. Ouais. Ils ont la lance, le bouclier.
Ils font ça, c'est extraordinaire.
Et c'est énigme. Mais tu peux aussi avoir peur souhaite, pour dire, eux
s'ils gagnent l'Europa League.
Ils sont 8e.
On vous le souhaite.
Ils sont 8e avec 41 points. Ils sont sur la jante et tu dis, mais avec le profil de certains joueurs, la façon dont ils sont cramés là, tu te dis, mais ils peuvent très bien passer à côté de tout, malheureusement.
Évacuons l'arbitrage.
Aussi.
Est-ce qu'on peut dire ce soir que le Pignard, c'est pas forcément obligatoire?
Non, là.
Bah pour moi, la grosse erreur d'arbitrage de la soirée, c'est quand même Turpin, parce que s'il n'y a pas pénalty sur le Thiago Santos, bon, bah là.
Non, mais là, on était sur le match de Marseille.
Oui, dans le match de l'OM.
Non, mais il n'y a pas le deuxième jaune sur Montbagnard.
C'est pas possible. Ouais.
Là,
c'est
le péno, t'as l'impression que c'est n'importe quoi. Il va avoir le VAR en plus.
Non, mais c'est des fautes qui deviennent de plus en plus graves, là. On est plus sur de l'appréciation et tout.
Jérémy Pignard, pour le match.
On est sur quelque chose où, logiquement, t'es appelé pour une erreur manifeste. Tu y vas. Moi, je sais bien, si ce soir, il existe une personne qui nous dit qu'il y a pénalty, je veux entendre l'argument. Je veux savoir. Et pareil pour le deuxième jaune sur
Moumbagna.
Mais si quelqu'un...
Moumbagna, Daniel, s'il peut pas... Le deuxième est fantôme.
Oui.
Par contre, il peut prendre rouge sur le premier.
Non, mais, d'accord.
Oui,
mais,
c'est vrai que c'est vrai qu'il peut prendre rouge.
Mais moi, je veux qu'on arrête de raisonner en
termes... C'est des débats qui servent à rien, je suis d'accord.
Non, c'est pas ça. Ce qui sert à rien, c'est qu'on ne peut pas raisonner en compensation.
Non, bien sûr, c'est deux erreurs.
Ne peut pas être une compensation.
C'est deux erreurs.
C'est de l'addition d'incompétence.
Oui, exactement.
Et Moumbagna, le match change à partir du moment où il prend le carton rouge. Donc tout ce qu'il y a derrière, tu peux dire ça serait pas. Mais en fait, les erreurs, elles sont trop grosses. Et à partir du moment où t'as le VAR, on te dit tu interviens pour une erreur manifeste. Moi, si quelqu'un ce soir me dit le deuxième jaune, il existe et le péno, il existe, que cette personne vienne m'expliquer que le chef de l'arbitrage en France qui est d'ailleurs maintenant, parce que ils se font virer, ils sont contestés. Gauthier, les clubs de Ligue 1 n'en veulent pas.
Bah oui, mais bon, Lannoy
s'est fait virer et Gauthier, les clubs de Ligue 1, c'est limite, on veut pas lui dire bonjour. Donc tu te rends compte où on en est? Et t'as deux erreurs comme ça. Après, Stéphane soulignait celle dans l'autre match. Là, tu prends les matchs les uns après les autres, alors qu'on est dans la période qu'on appelle Money Time, celle où tout se décide. Oh, il y a des choses, c'est trop gros.
Je suis curieux d'entendre les Lillois ce soir quand même.
Ce qui s'est passé en défaveur de Brest, ce qui se passe ce soir dans les deux matchs, ouais, ça coûte cher au bout d'un moment.
Bon, voilà pour l'arbitrage. Tiens, on a au 32-16 un supporter de l'OM, c'est Amr qui est là. Bonsoir.
Bonsoir, la fine équipe.
Salut, ça va?
Attendez, j'ai Loufi Taro, l'arbitrage est excellent, arrête de toujours tirer sur le bout de vol français.
S'il te plaît, Daniel, quand tu lis un message sur le chat YouTube, j'ai déjà expliqué, tu dis ce message vient de là pour que les gens comprennent. Sinon, on comprend rien. Sinon, je l'enlève.
Qui téléphone pour nous dire en quoi l'arbitrage est excellent ce soir. Je veux entendre des illuminés.
Oui, pour qu'après tu les.
Je veux qu'ils me disent. Je le laisse parler, je lui dis vas-y, dis-moi que l'arbitrage ce soir.
Personne ne peut dire ce soir que l'arbitrage est bon.
Sur le chat,
ne perdons pas de temps, c'est ridicule, Daniel. C'est ridicule.
Mais moi je veux.
On va pas perdre du temps avec des gens qui disent l'arbitrage était bon alors que c'est tout le monde.
Je croyais que tu respectais les opinions de tout le monde, toi.
C'est ridicule.
Je croyais que c'était moi l'intolérant de nous deux.
Il y a intolérance.
Tu dodelines.
Il y a intolérance et bêtise.
Pardon Gilbert, excuse-moi, j'avais pas capté ce truc. D'accord.
Bon, Ambre, à toi la parole.
Bah pour le coup, je suis d'accord avec toi.
Merci beaucoup. Déjà, j'aimerais rendre un très très grand hommage à Stéphane Guy qui est là ce soir. J'admire beaucoup en tant que commentateur que j'ai eu le plaisir
d'écouter à Canal+. Tu as du goût.
Merci,
oui,
citoyen.
Et oui, avec la fameuse émission J'ai plus jeune qui m'a fait vraiment découvrir.
Là, je ne commentais rien, à part les conneries de Cazard. Il y avait du boulot.
Il y avait du boulot, j'imagine. Voilà, et qui a des positions en tant qu'homme et en tant qu'humain qui sont exceptionnelles aussi. Donc voilà, petit hommage à Stéphane. Après, j'aimerais revenir sur.
Je précise à notre auditeur qu'il est de ma famille.
Je voudrais revenir sur l'arbitrage parce que
c'est
un très bon cru ce soir, le Pignard.
Oui.
alors, là où il doit intervenir, en fait, sur le carton jaune, il n'y a jamais de carton jaune pour pouvoir donner un rouge après à Mombania. Il n'y a surtout pas pénalty après sur l'action du pénalty.
Nous sommes d'accord.
En tant que supporter, je le dis, donc je l'assume, ça, il n'y a pas de souci. Et après, j'aimerais revenir aussi sur le fait que. On a des occasions pour pouvoir tuer le match. Ndiaye à la 80e,
Ndiaye le face à face, là. C'est facile. Parce que Aubameyang, il arrive au bout d'une course, d'un exploit personnel où il passe en revue 5 joueurs. Bon, j'ai plus de circonstances atténuantes pour Aubameyang qu'Ndiaye. Ndiaye, il est seul, là. T'as le temps de le mettre.
Il est en face à face. Il doit jamais rater cette occasion quand il est en face à face. Donc ça veut dire que c'est quand même un joueur qui est pas guéri au niveau de son talent de footballeur, parce que je pense qu'il a encore cette émotion qu'il porte en lui en tant qu'ancien de l'OM et qui fait que peut-être ça joue encore beaucoup sur ses performances actuelles. Et puis ce soir c'était l'occasion de pouvoir revenir à 3 points de Lens et d'aller chercher l'Europe, et puis on le fait pas. Le week-end prochain aurait pu être un très beau week-end pour Marseille et essayer de revenir dans la course à l'Europe. Et là, il va falloir se battre pour la 7e place, parce que je vois pas ce qu'on peut faire.
Oui, mais c'est une chance ce match de Marseille contre Lens, justement. C'est une semaine pour Marseille qui peut. Alors oui. c'est compliqué d'enchaîner tous les 3 jours ce genre de match, puis c'est à 10, etc. Mais voilà, Lens en ce moment est quand même pas une équipe flamboyante, loin s'en faut. Donc c'est une chance pour l'OM de jouer Lens. Voilà, oui, c'est des matchs qui doivent.
L'OM, quand tu les vois, ils te rassurent de quoi?
Non, mais de rien.
Il y a un moment, la volonté, c'est évidemment, c'est ce quoi. Il faut le mettre en avant, il faut féliciter. J'adore les équipes qui ont du caractère. Mais ça ne sert plus à rien, ça ne peut pas suffire.
Ouais,
au moment où tu vas jouer, même si Lens n'est pas bien, ce soir tu t'en tires bien contre Nice.
Mais Mumbagna,
Dois jouer l'Atalanta en aller-retour. Tu dois finir la saison en essayant d'aller accrocher quelque chose. Tu t'en tires à la dernière minute contre Toulouse. Je répète, tu es sur la corde. Moi, s'ils y arrivent comme ça jusqu'au bout, en étant sur la corde, contre Benfica, tu es sur la corde. Ça va au péno.
Finissent 7e ou 8e, ça va rien donner.
T'es sur la corde et tout. C'est génial, hein. Ça procure énormément d'émotions. Les gens sont en transe quand ça se joue là-dessus. Mais si ça dure, ça dure.
Oui, mais le symbole, Daniel, de c'est le rouge de Mombania. Oui, il n'y a pas carton. Mais il vient de quoi ce jaune? D'abord, du fait qu'il a un ballon quand même facile à contrôler pour un attaquant normalement de ce niveau-là. C'est une passe.
Niveau?
Je sais pas, mais pour un attaquant titulaire à l'OM, pour juste cerner le problème comme ça, le ballon qu'il a à contrôler, il se met dans la bouise tout seul, Mbanya. Oui, mais ça symbolise assez cette équipe Jean-Louis de l'OM qui a plein de
Je ne m'exprimerai plus jamais en direct sur ce joueur. Donc, Jean-Louis Gasset, 2 points, ouvrez les guillemets. C'est un joueur qui est faible techniquement et qui n'est pas fini. Je referme les guillemets.
Oui, c'est ça. Ouais.
C'est Jean-Louis Gasset qui l'a dit, c'est pas moi.
Oui, mais c'est vrai que depuis qu'on le dit, nous, on dit qu'on est raciste. Non, mais c'est assez choquant.
Ah bon,
oui, oui,
bah
oui,
le débat, le débat, il est pas là. C'est juste que t'as raté.
Il faut savoir qu'il y a un niveau technique.
Non, mais bon, bref, passons.
Mais moi, maintenant, j'en en parlerai qu'en disant Jean-Louis Gasset de
Mitroglou, il était à peu près, il était peut-être un peu plus habile techniquement quand même que.
Mitroglou, comme il n'est plus là, j'ai plus besoin de mettre les guillemets, il était bidon. J'ai plus besoin. C'est bon.
Là, non, mais tu sais, c'est pas le débat du soir, mais je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais il y a quand même eu, parce qu'un jour, Mitroglou a fait un grand match. Un match contre Monaco. Il a été effectivement très bon, décisif pour l'Est. Et il y avait quand même eu un édito dans Le Monde, qui parle quand même de foot tous les 36 du mois, dans Le Monde, un édito pour louer Mitroglou et expliquer que tous ceux qui critiquaient Mitroglou
étaient des...
Ah ben si, mais c'est un article pour
Mitroglou. C'était le correspondant à Athènes qui...
Non, c'était, je sais pas, un des membres de la rubrique sport du Monde, dans Le Monde. Extraordinaire. Bon, bref.
Ah, Le Monde, à des
absences.
À certains temps, avait un supplément sport le week-end qui était bien.
Ils ont arrêté. Pas duré longtemps.
Bon, vraiment, c'est intéressé par tout
l'arrêteur. C'est pas dire que tout se défend, toutes les opinions ne se valent pas, mais elles se défendent toutes dans le foot, quoi. Circus.
Je remercie Arbre au 32-16 et j'accueille Mehdi qui est avec nous. Salut Mehdi.
Bonsoir Stéphane, Daniel, Gilbert, comment vous allez?
Bonsoir
Mehdi. Ça va, toi t'es déçu je crois.
Ouais, un peu déçu. Bon, je vais essayer quand même de contraster un petit peu avec ce qu'a dit l'auditeur précédent. Et il y a quelques quand même éléments de satisfaction avec des joueurs qui reviennent. Klose qui fait un bon match.
Ah oui, Klose, bien sûr.
J'imagine que Klose a été un problème à un moment dans cette équipe.
Non, mais ça mais... c'est extra sportif.
Ouais, en réalité,
Ah,
il faut se souvenir quand même de ce que disaient les dirigeants sur ce joueur. Hein.
Ah bon, là, ça a coupé malheureusement.
Alors que c'est quand même un des
mais l'OM a deux matchs à domicile hein, au championnat avec c'était ce calendrier remodelé là, ils jouent Lens et Lorient.
L'OM ça maintenant ça va être à l'arrache, ça va être l'exploit individuel, ça va être je sais pas ce qu'ils vont chercher comme ressources, mais tu as la Ligue 1, tu as la Coupe d'Europe, comment est-ce qu'ils vont gérer les deux en plus t'es en demi-finale. Enfin je le vois comme ça.
C'est hyper excitant. La période
c'est très excitant,
l'OM,
mais
ultra excitante, c'est magnifique.
Mais c'est pas prévisible en fait,
mais c'est improbable que cette équipe là avec ce parcours-là, soit demi-finaliste de Coupe d'Europe, c'est...
Exactement.
Je ne sais pas si dans le foot français, on a eu ça. Une équipe aussi limitée et qui parvenait quand même à être en demi-finale de Coupe d'Europe. Parce qu'on n'a quand même pas vécu des demi-finales tous les ans hein, de Coupe d'Europe. C'est un cas rare.
Alors juste oui, j'ai le calendrier sous les yeux. Donc là, ils vont recevoir Lens et ensuite Lorient avant de se déplacer à Reims et au Havre. Voilà le calendrier... qui reste de l'OM.
Oui, mais avec le double match de Coupe d'Europe qui pompe un max d'énergie et d'adrénaline, de mental et tout ça. C'est ça surtout, parce que l'OM va, je pense, surtout être excité par ce double match contre l'Atalanta. Parce qu'à l'OM, la Coupe d'Europe, parce que ça excite tout le monde, parce que le stade va être plein, que beaucoup de Marseillais feront le déplacement, ça va exciter énormément de gens et ça pompe beaucoup d'énergie.
Est-ce qu'on a retrouvé Mehdi? Mehdi, tu es là?
Ah, voilà. Désolé les gars.
Oh, pas de soucis.
Donc oui, je disais, oui, c'est vrai, c'est ce que je voulais dire, c'est que la double confrontation contre l'Atalanta, c'est maintenant ce qui nous reste pour vibrer cette saison. On sait que la sixième place, ça va être très dur à atteindre, surtout que Rennes et Lyon, ils n'ont que ça à jouer, et Lens également. Donc voilà, il va y avoir cette double confrontation qui va être hyper importante pour nous, et on espère que les joueurs en ont conscience surtout, et qu'ils vont tout faire pour gagner.
Bon, alors, tiens, profitons de ta présence, on va tout à l'heure faire une petite évaluation niçoise, mais là...
Ça veut dire que toi, c'est intéressant ce que dit Mehdi, juste, je veux dire, ça veut dire que toi, c'est tout pour l'Europa League, quoi. C'est-à-dire la Liga, aujourd'hui, pour toi, c'est vraiment secondaire. T'es pas de ceux qui disent, bon, allez, faut aller rechercher la Coupe d'Europe.
Je pense que si je comprends bien, il a dit que c'est pas la 7e ou la 6e place qui va l'exciter. C'est-à-dire, à la limite, ça devrait être un minimum pour l'OM. Évidemment, l'Europa League joue une demi-finale, je comprends le côté excitant que ça peut avoir contre une équipe qui n'est pas un foudre de guerre européen. C'est une super équipe, hein, l'Atalanta, techniquement, tactiquement, c'est au-dessus de l'OM. Après, si l'OM veut refaire le coup de Benfica ou avec le cœur, la générosité passée, tant mieux, hein, ça s'est déjà vu, ce genre de choses-là. Mais bon, écoute, rappelle-toi, en 96, Bordeaux
étant
que de classement et va jusqu'en finale. Même si
je pense que techniquement,
ce Bordeaux-là était supérieur. Ils avaient fait une saison cata en passant à côté et tout, mais sur le terrain, techniquement, c'était beaucoup plus solide.
Et leur parcours européen, il avait une allure quand même que n'a pas celui de l'OM cette année.
Mehdi.
Et surtout vu l'état de forme des joueurs, hein, vu l'état de forme des joueurs actuellement, quitte à tout mettre dans une compétition, autant tout mettre dans l'Europa League. Là, les joueurs, ils vont jouer tous les 3-4 jours jusqu'à la fin de saison. Je pense qu'ils ne tiendront pas tous. Avec les retours de blessures, avec les retours de suspension, je pense qu'il faut, s'il faut tout mettre quelque part, c'est bien en Europa League.
Évaluation, je crois que tu voulais parler de Paulo Lopez.
Oui, en fait, je voulais vous lancer un petit défi de me citer un joueur, enfin un gardien des 5 grands championnats qui est moins bon que Paulo Lopez sur sa ligne.
Qui est quoi ?
Qui est moins bon que Paulo Lopez. Je dis sur sa ligne, mais
il y a un arrêt quand même qu'il fait ce soir sur sa ligne, sur son
oui,
côté.
Oui, mais la, je comprends pas ce que tu veux dire. En fait, il a la balle sur lui.
Ah, tu veux dire sur sa ligne, d'accord. Mmh. Ok, ouais. Bah oui, mais il, c'est un gardien aussi. Il peut te faire un match héroïque comme en Coupe d'Europe, et derrière, effectivement, t'as l'impression que tout rentre si tu cadres.
Ouais,
c'est bizarre.
Ouais, mais le problème, c'est que à chaque fois que la balle est sur lui, certes, il peut faire des arrêts. Alors, ça peut être des arrêts qui peuvent paraître impressionnants, et c'est ce que les gens retiennent. Mais dès que la balle est à 2-3 mètres de lui, il ne va jamais la chercher. Et même sur les pénalties, hein, on n'aura qu'à regarder. Si la balle est un peu placée en lucarne, ou placée un petit peu, sur le côté, il va jamais la chercher.
Bon, non, mais moi, ça, moi, Benfica, je veux dire, ce que, tu, moi, ce que tu me dis, ce ah que non, tu me dis, là. C'est ce ah que, oui. Non, il a pas fait mes matchs, évidemment, mais, évidemment, puis il a des matchs à faire valoir, etc., mais n'empêche que, voilà, quand t'es l'OM, c'est le débat que j'ai sur d'autres joueurs de l'OM, mais quand t'es l'OM, tu dois avoir un meilleur gardien que Paulo Lopez. C'est pas un mauvais gardien, c'est pas l'assassiner que dire ça, mais si t'es un vrai OM avec ce budget-là, tu dois avoir un meilleur gardien.
C'est pas le pire poste, hein.
Non, évidemment,
un autre attaquant en dehors d'Aubameyang, un autre milieu enfin, terrain.
Daniel, quand tu passes de Mandanda à Paulo Lopez, tu régresses. Voilà, tu régresses.
Mais bon, écoute.
Là, on parle d'un titulaire en puissance. Mbagna, je veux bien, mais Mbagna, il n'est pas destiné à être titulaire.
Non, moi, j'ai juste dit un autre attaquant en dehors d'Aubameyang.
Oui, non, mais voilà, je veux dire.
Parce que Sarr, Ndiaye, c'est pas de la grande fiabilité, tu vois. Sarr, pour moi, j'ai l'impression cette année, il n'a pas joué à l'OM.
Ouais, il a joué un petit peu en Europa au début de saison.
L'impression qu'il a pas réellement. J'appelle pas ça faire une saison. C'est non, comme non. Ndiaye, j'appelle pas ça faire une saison. Correa, c'est même pas qu'il a pas fait une saison.
C'est lui, c'est un fiasco.
Je sais même pas. Son domicile est à Marseille.
Bah, ouais. Et Unai et Harit, ils ont fait une saison.
Bon, Harit un peu plus quand même. Mais bon, voilà.
Mais quand tu te contentes, si tu commences à te contenter de ça, c'est le problème.
Moi, je trouve que
c'est le niveau d'exigence.
La situation de l'OM, là où ils sont là, avec toutes les crises qu'il y a eu, je trouve que c'est un miracle.
Ouais, je suis d'accord.
Et le parcours en Coupe d'Europe, t'as fait un peu la fine bouche. Ah, c'est pas mal, hein, sortir le Shakhtar, Villarreal,
oui, bien sûr.
C'est des grands noms européens.
Je voulais parler avec Bordeaux. Bordeaux, ils sortent le Milan AC.
C'est le seul.
En leur mettant 3-0.
Après, si, ce Spartak Prague, à l'époque, c'était pas mal, mais bon.
Non, on peut pas comparer les parcours. Mais oui, l'OM, enfin. Mais, moi, je trouve que Gasset, quand même, faut quand même parler de cet homme-là. Je trouve qu'il maintient de la vie finalement dans ce club de façon quasi miraculeuse. En ayant tourné le doigt à ses dirigeants, hein, en ayant fait,
tu veux
en
dire
ayant
que là lancé aujourd'hui,
Gaï, Klose, machin, il a quand même redonné vie à l'OM sur la fin de saison.
Tu veux évidemment. Dire que là aujourd'hui, ils peuvent dire on peut gagner l'Europa League et on peut finir 6e de la Ligue 1 et on est au paradis.
Ah bah là, non,
et tu ça, peux c'est... finir 8e et être éliminé en demi.
Voilà.
C'est pour ça que cette saison est excitante et qu'elle est pleine de passion.
En janvier, je sais pas en quelle année, en quel mois il a été nommé Gasset, février.
Février.
Ouais, janvier-février.
Moi, je
pensais même à un moment donné que Lyon finirait devant Marseille, hein, tellement c'était mal barré leur affaire.
Je remercie Mehdi au 32-16. Dans un instant, on va parler de Nice, ensuite Monaco, ensuite Lille, puis Paris, Lorient, et toute l'actu du jour. On est là jusqu'à minuit et demi dans l'after. Ce soir, tiens, un petit annonce pour demain. Demain, pas de match. Demain, de 20h à 22h, dans Génération After, Habib Bey sera là dans notre studio. Bien. Et nous, on aura aussi une petite surprise entre 22h et 23h. Enfin, vous n'êtes pas au courant, parce qu'on vient de. Jérôme Thomas vient de caler notre invité de demain. Willy Sagnol sera avec nous. Sélectionneur de la Géorgie qui s'est qualifié à l'Euro. Qui est un ancien de la maison, RMC, et qui sera avec nous demain soir pour nous raconter.
Il a dit juste après la qualif, il m'a dit quand je suis à Paris, je passerai vous voir.
Voilà, bah il sera avec nous demain.
Je crois que Jérôme l'a intercepté.
Jérôme, c'est un super casting, parce que puis on a envie d'entendre.
Il y aura Stéphanie aussi demain, c'est dire s'il y a un casting de fou.
Oui. Non, mais Sagnol qui raconte cette aventure en Jérôme.
Ah, bah oui, c'est génial.
Moi, je m'en fous.
On n'a pas tant de Français, de Français sélectionneurs à l'Euro.
Oui.
Hors équipe de France, il ne doit pas y en avoir 50 000. Hein.
Exactement.
Moi, j'en ai pas. Je sais pas. J'avais la vos mémoires respectives, mais
grand ballon.
De quoi t'allais parler?
Un Français sélectionneur d'une autre sélection que la France à l'Euro. J'ai pas de, tu vois, on a eu des coupes en Coupe d'Afrique,
non, mais je crois qu'il y en a pas.
Mais à l'Euro, je sais pas si c'est pas peut-être pas le premier, il y en a peut-être eu, mais
à l'Euro, oui. En même temps, c'est presque normal. Ah,
maintenant, l'Euro, c'est les 54 pays, pays sur
voilà, les pays européens.
Il y a 52 pays en Europe et 64 qualifiés.
Quand t'avais les gros pays et tout, c'était pas la mode d'avoir des entraîneurs étrangers
à la tête
des
sélections. Non, mais c'est pour ça, c'est un.
À part Capello et Eriksson qui ont dirigé l'Angleterre, globalement, sinon tu prends un mec du pays.
C'est vrai, c'est vrai.
Allez, à tout de suite dans l'after pour parler de Nice.
RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h23, Stéphane Guy est là, Daniel Riolo est là, après l'OM. Évoquons un peu le destin niçois. Parce que les Niçois jouaient, enfin, c'est Farioli qui le disait avant le match, il disait on pourrait encore être deuxième, c'est un match crucial pour nous, etc. Bon, j'imagine
c'est
que.
C'est d'une grande tristesse ce qu'on a vu de Nice quand même.
Eux non plus, seront pas contents ce soir.
J'ai aimé leur début.
Paradoxalement, oui, c'est vrai.
Et pour replacer dans le contexte, suite à, on en avait beaucoup parlé de l'affaire Nice, de ce qui était en train de se passer dans le vestiaire, et qui a illustration de tout ça dans les propos de Boulka notamment, qui avait dit il y a des joueurs, ça va pas, dans le vestiaire tout derrière.
Oui, il y avait un moment très chaud là.
Derrière, il y a eu un règlement de compte, comme on dit dans ces cas-là, ils se sont dit les choses. Et la situation s'est apaisée, les séances d'entraînement sont redevenues bonnes et Nice s'était remis à espérer quelque chose en cette fin de saison. Le match de ce soir pouvait être un virage. J'ai aimé leur début de match, l'ouverture du score. Derrière, je crois que Mofi a encore une très belle opportunité avec un plat du pied qui est certes pas facile à faire parce qu'il est à l'entrée de la surface, mais où je pense qu'il peut au moins cadrer. Une fois qu'ils ont marqué, si on se souvient du Nice de la première partie de saison, je me suis dit, si vraiment ils ont retrouvé ce niveau, avec un but d'avance face à un adversaire fatigué, je pense qu'ils peuvent, ils peuvent prendre la victoire au Vélodrome. C'est pas ce qui s'est passé parce que, en plus, avec la supériorité numérique, je pensais que ça allait être même encore mieux. Leur deuxième mi-temps, j'ai trouvé en manque de, je sais pas, ils ont pas appuyé, manque de caractère, ils se sont fait bousculer, le jeu qui, moi, depuis le début de la saison, je comprends sans réellement comprendre ce qu'il veut mettre en place, je vois bien on essaye de jouer tranquillement, de se passer la balle, d'être propre, mais ça manque de niaque, quoi. Ça manque de on rentre pas assez dedans. Là, on est dans une période de fin de match où il faut mettre plus d'intensité, il faut aller les chercher les victoires. Elles vont pas tomber comme ça parce que t'as réussi un enchaînement de 4-5 belles passes, quoi. Il faut y aller. Et ça, moi, je trouve que ça leur a manqué dans la deuxième mi-temps. J'ai été déçu par leur deuxième mi-temps. Je pense qu'ils avaient une très très belle opportunité ce soir. En plus, je trouve que quand eux, ils font les changements, ils font rentrer des joueurs, ça semble meilleur que ce qu'il y a en face. Mais l'OM avec les dents, ils sont plus à féliciter ce soir par rapport à Nice. Ouais.
Est-ce qu'il leur manque pas finalement le grand attaquant qui fait les diffs à Nice?
Le grand attaquant qui fait les diffs, ils l'ont payé 25 millions l'hiver dernier. Et c'est un attaquant que l'OM voulait. Et on a tiré beaucoup de fierté à Nice de dire...
Qui a marqué d'ailleurs.
D'ailleurs, rappelle-toi. Moi, je me souviens qu'à ce moment-là, il dit, est-ce qu'un attaquant comme Mofi qui est à Lorient, quand on va lui proposer... Parce qu'au départ, c'était en train d'être négocié pour Nice, machin. Et l'OM est arrivé tardivement sur l'affaire. Longoria s'est mis sur le truc. Il a pris l'avion, il est allé. On s'est dit, un mec comme ça, évidemment qu'il va aller à l'OM. C'est quand même beaucoup plus excitant d'aller à l'OM. Et finalement, le bon travail des dirigeants niçois, la force, on est en train de monter un bon projet.
Les moyens financiers.
Ils l'ont convaincu. Mais l'OM était prêt à s'aligner sur la somme. Oh, 25 millions pour un attaquant, c'est bien quand même.
Non, mais le salaire, Nice peut donner le même salaire à Mofi que l'OM, ça je veux dire.
C'est ça.
Peut-être même plus.
Et au final, mais Mofi,
c'est pas concluant.
C'est pas formidable, quoi.
Non.
C'est pas un attaquant, aujourd'hui, si t'es vraiment un bon attaquant, tu claques.
D'ailleurs, ça sera,
tu claques, ce sera minimum 15-20 buts.
Ce sera peut-être un sujet, Daniel et Gilbert, pour nos émissions hors match. C'est quand même. L'année dernière, on a vu un nombre incroyable d'attaquants français qui marquent, enfin, du championnat de France, qui marquaient beaucoup de buts, qui brillaient, etc. Dont Mofi, d'ailleurs. Ou, Wai avec Montpellier, etc. Et cette année, il y a quand même un vrai coup d'arrêt, puisqu'on a Mbappé loin devant, c'est David qui a 17 buts, qui est pas, deuxième buteur à 17 buts,
Mbappé,
c'est pas
fort. Mbappé, il en est quand même à 43 buts, toutes compètes confondues, j'ai vu ça tout à l'heure.
Il est pas mal, je l'ai regardé tout à l'heure, il est pas mal.
Ouais, ce soir, il y avait Boga, Mofi et Chaud. D'ailleurs, t'es plutôt chaud ou mal cuit, toi?
pas mal, pas mal.
On s'est amusé pendant le match. On s'est dit que tiens, ce serait quand même sympa d'avoir un jour la doublette Gigot Malcuit en défense.
Gigot Malcuit.
Je sais pas si c'est possible.
Chaud Gigot. Gigot. Ouais. Gigot.
On a Hugo qui est supporter niçois au 32-16. Salut Hugo.
Salut à tous. Ça va?
Ouais, ça va. Bon, toi, je crois que tu voulais pas parler spécialement des attaquants, mais plutôt du coach, toi.
Ouais, du coach et de l'ensemble, enfin, du, oui, en particulier lui, parce que c'est le premier, avec la compo de base, c'est le premier responsable, et de ce qu'il veut mettre en place. En fait, il a jamais voulu s'adapter à l'effectif. Bon, nous, on a un effectif au milieu et en défense qui est trop juste pour développer le jeu qu'il veut. Il veut essayer de faire un espèce de jeu de position, avec à chaque fois des relances courtes, essayer de jouer le plus court possible pour remonter les ballons, mais ça, on a 3 défenseurs sur 4 qui sont pas à l'aise avec le ballon, on a 2 milieux sur 3 qui sont pas non plus à l'aise avec le ballon, ça fait beaucoup, et Sanson c'est pas non plus incroyable, et donc moi je me suis dit, bah, au fur et à mesure de la saison, il pourrait faire comme à 18h, quoi, passer un jeu un peu plus direct, un espèce de 4-4-2, histoire de mettre Guessant et Mofi devant, et voilà, un truc, bah tant pis, là, manque de peau, en plus Diop qui est le milieu le plus à même, qui aurait pu le plus s'intégrer dans son jeu à lui, qui est blessé toute la saison, bah voilà, il s'adapte ni à l'effectif, et alors il s'adapte.
Tu le trouves trop dogmatique, en fait, quoi, Farioli.
Non, mais il s'adapte pas non plus à un match à 10 contre 11. Alors quand il fait sortir Mofi pour Guessant, alors que là, justement, c'est le bon moment pour mettre des attaquants, avoir un jeu plus direct, on fait plein de centres, avoir Mofi et Guessant dans la boîte, c'est bien mieux. Non, il fait à chaque fois des choix frileux, je veux dire. C'est, très franchement, un Guizolfi. On va sûrement le garder l'année prochaine. S'il se foire, Guizolfi doit sauter avec lui. Hein. Parce que s'il le prolonge, il a intérêt de lui donner absolument tout ce qu'il veut au niveau des profils de joueurs. Parce que là, il est en train de dire, oui, je veux développer ça. T'as pas ce qu'il faut là pour développer ça. Adapte-toi. Non, on va le faire comme ça, bah, très bien. Donc, alors, nous, résultat, quand on se prend le but de Klaus, là, on n'arrive plus à sortir le ballon. Ozario, chaque contrôle, c'est raté. Thuram, pareil. Barre des Mendy, pareil, ça, c'est, ouais, quand t'as le ballon qui te brûle les pieds, à chaque fois que tu veux relancer, ouais, c'est sûr que tu vas la perdre souvent, la balle. Et pareil, dans le jeu long, on l'a pas bossé, du coup, bah, Mofi est souvent esselé, il perd. Sur le but de Klaus, on s'est retrouvé à être dans nos 30 derniers mètres pendant je sais pas combien de temps, jusqu'à son flobange. Donc, c'est pas grave. C'est vrai qu'on a pas de chance, on a vraiment pas de chance, surtout avec Diop, qui était vraiment le mec qui aurait pu changer quelque chose. Mais voilà, bon, c'est tant pis. Mais le fait de pas s'adapter, alors à 10 contre 11, de pas arriver à s'adapter non plus dans un match où Marseille a joué 2 jours de repos de moins que nous, a joué contre Benfica jusqu'aux prolongations. Et nous, on est là, on run autour de la surface, on était paralysés avec le ballon à 10 contre 11.
Ah, je suis d'accord, c'est ce que je disais, ça manquait de personnalité, de niaque, ça rentrait pas dedans, c'est pas, ils sont pas allés, ils ont fait les changements offensifs quand même en seconde période, pour aller chercher, pour déséquilibrer d'abord se déséquilibrer soi-même et on va dire aller chercher la victoire. Il y a eu l'intention dans les changements, mais sur le terrain, les joueurs n'ont pas transformé cette intention.
Mais non, mais dans quel changement il y a eu l'intention? Non, si tu veux de l'intention, tu fais rentrer Guessant et tu sors un des milieux. Tu joues un jeu plus direct, tu sautes le milieu, il est là pour.
Oui, mais le jeu direct, si c'est pas du tout ce qui est l'idée de départ de jouer de cette façon.
Ah oui, mais il a sorti Sanson pour mettre la board.
Bah quand même, je pense que les changements ont été en force.
Le problème, c'est qu'une équipe change pas de visage comme ça parce que l'adversaire tout à coup est à 10. Hein. Si elle a pas ça dans sa culture, dans son ADN, dans sa façon de procéder, c'est compliqué de s'adapter à ces circonstances-là. Et les Marseillais ont été eux plutôt bons dans cette gestion-là, avec des petites fautes, avec des temps morts, etc. Ils ont réussi à casser aussi le rythme du match habilement.
Nice, attention, parce que il y a un calendrier, franchement, qui est compliqué.
Nice est à Strasbourg ce week-end.
Ah, déjà, ils jouent à Strasbourg ce week-end, ils gagnent pas. Ensuite, ils reçoivent Le Havre, ils reçoivent Paris, et en plus, dans un calendrier chamboulé, ils sont victimes 2 fois du calendrier chamboulé, les Niçois. Ouais,
parce qu'ils sont deux semaines sans jouer là, non?
Ouais. Puis après,
je disais l'autre soir que ça, franchement, c'est pas normal. Hein.
Et en plus, le calendrier chamboulé, bon, bah, c'est pour recevoir Paris. Donc, ils vont enchaîner la dernière semaine de compète, là, Nice-Le Havre, Nice-PSG et Lille-Nice, dernier match.
Qui peut être un match décisif pour le
Nice
coup,
peut terminer hors zone Europe.
Hein. Ouais, non, mais ils ont un calendrier très dur.
Tu vas regarder le calendrier et le classement, tu vas te dire ça d'un tas d'équipes. Tu peux dire Marseille peuvent finir hors zone Europe. Nice, ils peuvent finir hors zone Europe. Rennes, ils peuvent finir hors zone Europe.
Lens.
Brest. Tu peux même regarder le calendrier de Brest et te dire, ça peut être la grande glissade, il termine 6e ou 7e.
Attention. En zone Europe, peut-être pas, Daniel, mais.
Attention, attention.
Tiens, Jean-Luc Gasset en conférence de presse, on va écouter ce qu'il dit. C'est en direct.
Malgré l'infériorité numérique, d'avoir donné le maximum pour le gagner, en ayant eu deux face à face avec le gardien, une équipe courageuse, bien organisée, je peux rien leur reprocher. Je peux rien reprocher. C'est vrai que on n'avance pas, mais on va continuer à y croire. Mais c'est vrai que physiquement, jeudi les prolongations, dimanche match à Toulouse, mercredi le match en retard à 10 en seconde mi-temps, physiquement. Avec les petits tracas que l'on a, j'ai pas grand chose à leur reprocher.
Voilà ce que dit Jean-Luc Gasset, qui reparle après chaque match de l'état physique de son équipe. Hein. Ça, c'est la constante là de.
Comment veux-tu qu'il ne le constate pas
depuis qu'il est là, en l'occurrence. Sur Nice, rien à rajouter, les gars. On a à peu près fait le tour. Évaluation, non. Si, on l'a fait un peu. On a parlé.
Moi, je trouve que ça fait partie des équipes.
Je trouve que Khéphren Thuram revient bien. Il a eu un gros coup de mou dans la saison.
C'est un joueur qui a quelque chose. Ouais, d'accord.
Il revient bien et tout.
Tu peux pas citer un joueur
qui dit avoir une dimension de l'ambition pour sa carrière, pour son club et tout. Je disais, tu fais pas des quarts de saison, des tiers de saison, des.
Non, puis, en plus, c'est un joueur qui, dans un match.
Il y avait pas de Coupe d'Europe, pour Nice cette année. Ils avaient un match par semaine, c'est bon, quoi.
Et puis, par son style, il a des fulgurances. Donc, à un moment donné, t'en prends plein les yeux parce qu'il va faire une percée, il va en éliminer 4.
Exactement.
C'est pas ça, un genre de foot, quoi. Pas ça, le genre de foot.
Et à côté de
Benjamin André, il est moins fulgurant dans un match, mais si tu le prends sur une saison,
Si je veux construire mon équipe, je prendrais André plutôt que Thuram, je suis d'accord.
Beaucoup plus de fiabilité.
Oui, en équipe de France, on parlera plus facilement de Khéphren Thuram que de Benjamin André, par contre.
Pourquoi?
Parce qu'il a ces fulgurances-là, parce qu'il est jeune, parce qu'il a l'équipe de France,
il joue une fois de temps en temps, et que le moment où il va y jouer, tu te dis qu'il est capable de faire 2-3 trucs en plus.
André aurait mérité au moins une sélection, ça c'est sûr.
Oh, je pense,
on va parler de Lille justement.
Et moi je trouve que Lille, c'est quand même, il y a des équipes comme ça. Moi j'aime bien voir comment les équipes progressent, parce que c'est aussi comme ça qu'on juge le travail d'un coach. Et on peut pas dire que l'équipe de Nice sur la saison ait progressé. J'ai l'impression même qu'elle est allée plutôt en régressant dans son parcours, quoi.
Dans un instant, Monaco, Lille au programme. On est là jusqu'à minuit et demi, je le rappelle, avec après minuit le match du PSG face à Lorient. Je me permets également de vous rappeler qu'en ce moment, la revue de l'After vous fait des cadeaux. Ouais, c'est bientôt la fête des pères, par exemple.
Déjà, la revue de l'After est un cadeau en soi.
Exactement.
Bah, nous avons fait un double cadeau.
Nous avons mis en place un code promo, RMC24. Donc, vous allez sur le site l'after.media. Pour toutes les offres, les abonnements d'un an, vous pouvez bénéficier de moins 20%. Donc dans la petite barre code promo là où vous mettez RMC24 et vous aurez la possibilité de faire une belle économie. Allez sur l'after.media, c'est cadeau. Dans un instant, Monaco Lille au programme, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit 30, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h39, Daniel Riolo, Stéphane Guy sont là, on analyse les matchs de Ligue 1. On va parler maintenant de Monaco. L'effet Périnel continue, on l'a dit tout à l'heure en ouverture dans les 3 points. Mais Monaco, oui, on en parlait dès lundi en disant si Monaco gagne, peut-être que c'est la deuxième place assurée. Alors, c'est pas mathématiquement fait, bien sûr. Mais enfin.
Non, mais si, quand même, la dynamique, elle est avec eux, là.
Exactement.
Dans la même semaine, tu tapes Brest et Lille, tu mérites d'être deuxième de Ligue 1.
Exactement. Et Monaco a 58 points, c'est-à-dire 10 points d'avance sur le cinquième. En sachant qu'il en reste 12 en jeu, on peut considérer que là, ils sont au moins dans les 4, c'est sûr et certain, quoi. Voilà. Et là, ils ont 5 points d'avance sur Brest, désormais, les monégasques.
Bon. Oui, et puis ils ont un calendrier, tu vois, ils reçoivent Clermont, ils vont à Montpellier. Voilà, quand tu reçois Clermont, que t'es Monaco.
Non, mais quand tu vois leur performance.
Il y a une dynamique en ce moment qui incite à penser.
Au-delà de la dynamique, tu vois leur performance, la qualité des joueurs, l'état d'esprit de tout le monde, la technique des uns des autres. Ils sont au-dessus. Tu vois un Minamino en ce moment qui, en pressing, fait le travail de 3 joueurs de n'importe quel club, tellement il est à bloquer toutes les relances. Il est partout, tout le monde travaille. Tout le monde est au taquet. Ils ont compris que c'était tout droit, qu'il leur restait 4 matchs. La Ligue des Champions est au bout. il y a les primes, il y a le printemps qui arrive à Monaco. On veut liquider tout ça.
Il y a le prince Albert dans les tribunes avec Krimolov, ils sont de nouveaux potes.
Pour que chacun ait négocié ses prolongations, ses départs dans d'autres clubs et tout, parce qu'à Monaco, c'est une salle d'embarquement. Voilà, pour briller ailleurs et prendre des primes. Tout va bien, ils vont y aller, c'est tout droit, ils peuvent plus, parce que sur la qualité du jeu, c'est au-dessus. Il y a même Mbolo est même revenu ce soir, donc sur la fin de saison, tu vas avoir du choix en fonction des matchs.
Même s'il y a deux, trois absents quand même.
Ouais, mais franchement, ils sont bons. Ils sont, quand ils sont comme ça, ils sont au-dessus, même dans le match de ce soir. Je m'attendais à ce que la prestation de Lille soit plus emmerdante pour Monaco dans le début de partie.
Enfin, Daniel, il gagne 1-0 avec un pénalty quand même incroyable et flagrant, non sifflé. Non, mais quand même.
Oui, mais globalement.
Que Turpin soit même pas appelé sur cette action-là. Les bras nous en prennent quand même.
Ouais, mais quand même. Appeler Turpin pour lui dire quoi?
Je sais pas ce que diront les Lillois. Moi, je serais.
Stéphane.
Je serais furieux quand même.
Mais Turpin, il te prend même pas au téléphone, hein. Qu'est-ce que tu crois? On peut qu'il va répondre à la barre.
Je crois qu'il me répond.
Le mec, il appelle, il leur dit, tiens, l'oreillette, il la prend même pas. Il allait sauver Sia, il dit, vous me laissez tranquille. Personne parle à Turpin.
Non, mais ça.
Et en plus, c'est pas prêt de finir, hein, parce que.
Oui.
T'as vu ce qu'il se passe cette semaine?
Quoi, il va à l'Euro, c'est ça, tu veux dire?
Non. Paradoxe de l'arbitrage français. Pendant qu'on vit des heures sombres en regardant nos matchs retardés du soir, ces messieurs sont nommés pour les demi-finales de Ligue des Champions.
Ah, aussi.
Le Texier Turpin. L'un va faire.
Turpin, il va faire le Bayern.
Voilà.
Bayern Real.
Il avait fait un bon quart.
Ils sont sur la braise.
Non, mais moi je dis pas que c'est un mauvais arbitre. Turpin, il peut se tromper, il peut mal analyser un penalty.
Turpin ne se trompe pas.
Qu'on l'appelle pas et qu'on étudie pas quand même un peu, il y a faute en haut, faute en bas. Donc je sais pas. Bon bah ok. Donc c'est peut-être qu'il fallait faire faute au milieu en fait, pour que ce soit sifflé.
Tiens, on a Denis qui est là.
Après, globalement sur l'ensemble du match, Monaco est meilleur que Lille. On a senti que Lille c'était quand même un peu le match de trop là dans la série.
Moi j'étais
alors qu'ils ont été extraordinaires à l'aller au retour contre Aston Villa. C'est un club, c'est sans doute le meilleur club français en Coupe d'Europe. C'est le club qui est sorti. Mais ils ont eu un
hier soir, on avait Sébastien Basson avec nous qui regarde tous les matchs d'Aston Villa et qui nous a dit franchement ce qu'ils ont fait en Europa League.
Mais il y a pas beaucoup d'équipes capables.
Il a pas exactement dit ça. Il a surtout dit que Aston Villa sur les deux matchs. Je pense n'a pas joué en mode Première Ligue.
Oui, c'est ce qu'il a dit, ouais.
D'accord. Ah, je ne suis pas sûr si c'est ça que c'était.
Peut-être que c'est lié à la
Première Ligue. Lille a été en sous-rendement par rapport à
Lille. Lille a fait un grand match. Tout le monde doit les féliciter, mais je pense qu'Aston Villa, dans son projet de la saison, la Ligue des Champions et finir dans le top 4 en Angleterre, c'est plus important que la Conference League. Et que certainement, ils ont pris Lille de haut et que ça a failli leur coûter cher. Ils s'en sont sortis. Mais ça a failli leur coûter cher. Lille, comme tu dis, doit être certainement un peu fatigué par tout ce qui s'est passé. Mais quand même, ce soir,
il a manqué, de qualité.
Décevant, mais attention, à Monaco sur la première demi-heure, quand ils pressent comme ça très haut, bah tu vois aussi que même quand t'es une bonne équipe comme Lille, les sorties de balles sont plus compliquées. Quoi, quand t'as une équipe qui fait tout pour te marcher dessus, c'est plus dur. C'est fait Monaco qu'il faut féliciter.
Oui, mais
sur cette période de jeu là, hein. Ils s'en sont pas sortis, Lille. Ils ont les occasions. Quand Goodmanson, en plus en début de partie.
Ouais.
Tu rates une occasion pareil, t'as juste à décaler à côté de toi. Je me demande si je mélange pas Goodmanson et Haraldsson. Mais bon, il lui donne le ballon, ça fait 1-0. Ouais. Le match, c'est peut-être pas le même. Mais c'est ce qu'on a beaucoup vu à Lille. Hein. Tu le disais dans le match aller à Villa Park. Il y a toujours ce mal récurrent de l'efficacité, de l'instinct tueur.
Mais ils sont, je crois, j'ai entendu pendant le commentaire du match, ils sont 13e à l'extérieur. Lille. Bon, quand tu veux jouer deuxième de Ligue 1, tu peux pas être 13e à l'extérieur, c'est pas possible.
Je disais donc que Denis est là. Salut Denis.
bonsoir à tous. Oui, donc,
bonsoir Denis.
Non, mais toi, t'es le Denis Dupuis, toi.
Je suis le Denis Dupuis en Velay, de Haute-Loire, en Auvergne.
Non, mais parce que t'es passé Dupuis à Monaco maintenant.
Ah, mais je suis supporter des deux équipes. Hein.
Il l'avait dit pendant la Coupe de France.
Je
l'ai entendu pendant la Coupe de France.
Oui, je l'ai entendu.
Je me souviens de toi.
Je suis supporter de mon petit Puy-Foot 43, ma petite. Équipe, on va dire, départementale, régionale, puisqu'on est en N2. Et puis sinon, je supporte l'AS Monaco depuis des années, j'ai 50 ans. Donc pour en revenir à la
Je suis comme toi, moi j'aime à la fois Alençon et David.
Voilà, c'est ça, ouais, tu vois, t'as la petite équipe du coin, et puis t'as l'équipe, ta petite équipe entre guillemets campagnarde, si je peux me permettre, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais pour en venir à l'AS Monaco, plusieurs points. Tout d'abord, des regrets sur la saison, parce qu'on a trop perdu de points. Je pense qu'on aurait pu rivaliser contre Paris, comme un peu l'a fait Lens la saison dernière, mais on a trop perdu de points contre Lorient. À Lorient, on se fait égaliser en fin de rencontre. Chez nous, contre Lorient, on se fait égaliser. Le match contre Nice, chez nous, on a deux pénaltys, on loupe, on perd. contre Lyon où pareil, on domine, on perd 1-0. Alors je parle même pas du match contre Le Havre où chez nous on gagne 1-0 et puis on se fait égaliser. Donc des regrets. Après, moi je serai pas autant confiant que vous. On est second, certes. Mais enfin, comme l'AS Monaco l'a déjà prouvé, contre Le Havre, chez nous, on est capable de faire 1-1. Contre Lorient, avant-dernier, on est capable de faire 2-2. Contre Toulouse, chez nous, on est capable de faire
2-2. Ouais, mais pas le Monaco dans ce moment,
Non. Il reste 4 matchs. On est tout à fait capable.
Fétiche, camarade. T'as envie de te faire peur.
Non, mais Daniel, je connais très bien mon club. Je le suis énormément.
Oui, mais quand il est lancé comme ça, sur le peu de matchs qui restent, je pense que c'est autoroute maintenant.
Autoroute, moi je dirais une petite départementale de campagne.
C'est la première fois.
C'est
la première fois de la saison qu'ils enchaînent 4 victoires de suite. C'est un signe.
Ou alors
quand même.
C'est la corniche basse.
Oui, mais.
C'est périlleux, mais c'est quand même très bon.
Non, mais je connais trop mon équipe. Regardez, est-ce que vous avez vu le match chez nous contre le PSG? On fait un super match. Peut-être le plus beau match de la saison. On fait un 0-0. J'ai le sentiment que cette équipe, quand il y a du lourd en face, on joue. Dès qu'on a des équipes que l'on sous-estime, on se plante. On l'a vu contre Lorient. On n'est même pas foutu de tenir le score. On prend un but à la première minute. On n'est même pas foutu de tenir le score et on en prend à la 95e. Lyon marche. Pourquoi Lyon marche? Parce qu'on les a relancés. Juste avant la on les a relancés. On a relancé Lyon. On les domine. On perd 1-0. On les a relancés. Point barre. Donc, attention. Déjà, on va voir le match que l'on va faire contre Lyon et on va en parler après Lyon. Mais on peut très bien perdre contre Lyon. Lille gagner contre Metz. Et il reste que 3 points. Et en plus, il faut savoir qu'au niveau goal average, on est kiff-kiff bourrico.
Non, il reste encore 3 points et t'es à 4 matchs de la fin.
Denis, détends-toi, tu vas finir deuxième, tranquille.
Il n'a pas envie d'être détendu, laissez-le tranquille. C'est important pour un supporter d'avoir une dose de stress. Sinon, qu'est-ce que tu fais le matin quand tu parles avec tes potes? Il faut pouvoir pas. T'arrives pas en disant c'est bon, on est tranquille, on est deuxième. C'est bien d'avoir un petit peu les jetons comme
faut
ça.
Pas se le transmettre.
Oui, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mathématiquement, ce n'est pas fait.
Mais t'inquiète pas, on avait compris.
Sinon, le puits, là, c'en est où, là, depuis l'élimination?
Mon petit puits foot 43. Alors, ce samedi, nous avions un match contre Aubagne. Aubagne était premier. Ouais. Nous étions second à un point. Oh. Et comme second à un point de retard.
Deuxième, pardon.
Et on a des occasions, notamment une occasion à la 5e minute, là, devant le but. On n'arrive pas à la mettre. Des occasions. Résultat des courses, on prend un but, un joli but, voilà, on perd 1-0, on perd 2-0, on revient à 2-1, et là on est à 4 points, et c'est mort, quoi. Enfin voilà.
C'est Aubagne qui va monter en national, là.
Ah oui, il y a de grandes chances. Oui,
bon, tu vas te rattraper avec Monaco, c'est bon, t'inquiète.
Oui, et justement, une petite question que j'ai à te poser, Daniel. Enfin, j'en ai deux à te poser. Il me semble que, à moins que je l'ai rêvé, tu as dit avant-hier ou hier soir, ça sent bon avec l'Arabie Saoudite, l'AS Monaco. C'était une vanne ou tu as des infos?
Non, mais ça fait un petit moment qu'on en avait parlé, ça,
oui,
bien sûr.
Oui, parlé justement chez Jérôme Roussel.
Non, les négos sont très avancés avec les Saoudiens.
Très avancés. Mais bizarrement, vous en parlez.
Non, les problèmes,
mais
alors, pour tout dire, il y a un problème parce que ça discute sur les parts, parce que Reboloviev veut garder quand même un peu des.
Oui.
Il veut garder un peu des parts dedans et les Saoudiens veulent tout. Et puis, tu sais qu'il y a aussi les parts qui sont pour la principauté et le prince Albert veut pas les lâcher. Et ça, je trouve que c'est tout à fait normal. Je pense que la principauté doit garder toujours un petit bout de l'AS Monaco et ne pas tout vendre. Ça me paraît évident. Donc c'est juste une discussion autour de ça.
Je sais pas, la ville de Strasbourg, ils détiennent pas le club.
C'est pas pareil, c'est la principauté. Franchement, je trouverais ça très bizarre que le palais lâche le club à 100%.
Citoyen supporter de Monaco, qu'est-ce qui est le mieux alors, un propriétaire russe ou un propriétaire saoudien? Alors explique-moi dans la nouvelle ville, quel est le plus positif?
Déjà, il faut rendre hommage à M. Riboloflev parce qu'il faut pas oublier que quand il reprend l'AS Monaco, on est dernier en Ligue 2 en 2011. Faut pas l'oublier. Donc déjà, ce qu'il a fait, c'est déjà énorme. D'accord? N'oublions pas la saison qu'on a fait en 2007, mais aussi en 2015, quand on tape Arsenal, avec les Ferreira Carrasco, Berbatov, où on est en quart de finale. Faut pas l'oublier contre la Juve. Donc il a fait énormément, ce monsieur. Faut pas l'oublier. Après, moi, en tant que supporter...
Il a dépensé énormément.
Il a dépensé énormément. Oui, mais bon, moi, j'ai quand même vécu des émotions avec ce club. On était en Ligue 2, on est monté en Ligue 1, ça reste des émotions.
Ça veut dire que la nationalité, ou le pédigré, ou le cursus de ton propriétaire, tu t'en bats la trompette, quoi. Ce qui est important, c'est qu'ils mettent de l'oseille et puis que t'aies des émotions.
Je le dis franchement, j'ai envie de vibrer, quoi.
Pourquoi le monde actuel crève? On crève de ça.
La saison prochaine.
Et parce que toi, Stéphane, tu sais qui est propre sur Terre.
Bah non, mais je sais qu'il ne l'est pas, en tous les cas.
Le problème, c'est qu'il faut savoir qu'il l'est.
Mais ce serait mieux, ce serait mieux quand même de s'intéresser aussi un peu.
Tu penses qu'un propriétaire français est forcément propre?
Ah non, pas du tout.
Un américain est forcément nickel.
Non, ta pied n'est pas un mec propre, c'est clair.
Ah, merci. Par exemple. Déjà, par exemple.
Allez, bon de la fin pour Denis, les gars.
Avoir un paquet comme ça.
Vas-y, Denis.
Juste une chose. Moi, la saison prochaine, pour en revenir, la Ligue des Champions, c'est bien. Mais il faudra voir ce que veut faire Ribolovlev. Ou est-ce que la saison va se finir et qu'à ce moment-là.
Je te dis qu'ils sont en train de négocier pour vendre. Donc, pose-toi la question de ce que veulent faire les Saoudiens quand ils vont arriver.
Dernière question, moi j'aimerais bien qu'on parle de Ben Yedder, parce qu'il est fantomatique. Le dernier but qu'il a marqué en Ligue 1, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le 4.
Il est sur le départ, Ben Yedder, il a des soucis, il pense à autre chose.
Ouais,
Denis, on va te laisser, parce qu'il faut qu'on parle de Lille un peu là.
Ah bon, de Lille ouais. Ah oui, c'est vrai, ce qu'on a battu ce soir, j'avais oublié. Ah oui, c'est vrai, il faut en parler un peu. Bon, bah à bientôt.
Salut Denis.
Salut Denis, à bientôt.
À bientôt, merci.
Dans un instant, le LOSC au programme, ensuite il y aura Paris, puis l'actu du jour.
Donc t'es gonflé, toi, à une époque, tu disais il faut toujours qu'il y ait des Alsaciens à la direction de Strasbourg.
T'as pas compris ce que je voulais te dire.
Bah quoi alors ?
Que par exemple demain il y a un Monégasque à la tête de club, je trouverais ça tout à fait louable. Mais c'est pas, il n'est pas forcément nécessaire que l'État possède
c'est pas la
une
même
partie
chose.
Du club.
Mais c'est pas la même chose. T'as pas compris. La principauté à Monaco, c'est ce tout petit truc où moi je pense que le palais doit contrôler. Le club, il doit un bout doit rester.
Ils veulent pas contrôler puisqu'en fait ils veulent pas être justement. Non, ils veulent que quelqu'un mette un max d'oseille et puis ils veulent juste pouvoir dire tiens on a notre loge quoi. Voilà.
Il faut qu'ils aient un bout du club. Ça me paraît important pour la tradition et l'histoire du club.
Voilà. Allez à tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à 12h30 l'after foot.
Gilbert Bribois.
Avec Stéphane Guy et Daniel Riolo, on est là jusqu'à 12h30. Le PSG est tout à l'heure en programme. Lorient, l'actu du jour. Dans l'actu du jour, je vous parlerai de Giroud, d'Emmanuel Macron, qui a marqué son penalty annuel aux variétés Club de France, offert
si
par
c'est
le.
C'est Ventroux qui était gardien, c'est facile à mettre.
Non,
un
c'est pas lui. Bon, enfin, le gardien a eu la bienséance, de ne pas plonger. Bon, on en parlera parce que ça a fait beaucoup réagir.
Ah bon, pourquoi?
Bah parce que en gros, est-ce que c'est la place d'un président d'aller jouer au foot alors qu'il y a peut-être d'autres trucs à faire, tu vois?
Il va, c'est toujours une bonne cause derrière en plus, pourquoi il irait pas?
C'est les pièces jaunes, c'est
absurde. Pièces jaunes.
On s'en fout en plus vraiment.
Ils ont tous joué, les trois derniers ont joué là.
Parce que, en fait, le problème, c'est que quand Poutine joue au hockey, puis que tu vois tous les mecs en face qui s'écartent quand il avance avec le palais pour qu'il puisse aller marquer son but tranquille, puis que tout le monde l'applaudit. Là, en fait, c'est un peu la même histoire, c'est que Macron.
Tu vas pas aller, en plus, je crois qu'il y a une armée était là, non? Tu vois pas Mendy aller lui mettre un gros tacle au genou, quoi. Tu te dis, bon.
Non, mais quand il y a péno, comment le gardien, il essaie de l'arrêter?
Bon, après. Mais
il était pas trop mal tiré, son
en plus, franchement.
Petit filet.
En plus, il est, franchement, en sport, il est pas bidon du tout, hein. Il a un niveau tennis tout à fait honorable. Au foot, quand il est sur le terrain, t'as pas l'impression que le ballon lui est étranger. Ça va, c'est pas la honte.
On s'en fout un peu quand même.
Pas la honte. Mais on s'en fout
pas vraiment là où on l'attend. Surtout en ce moment.
Mais on s'en fout complètement.
Pour avoir vu François Hollande, il est meilleur qu'Hollande. Au foot.
Évidemment. Ça ne sert même pas. Lui, on voit qu'il a eu un rapport au sport dans sa vie. Il était pas privé de gym à l'école.
Meilleur que Giscard aussi, qu'on avait vu en son temps.
On voit que c'est il a pas négligé le PS.
Giscard, c'est le ski surtout, non?
Ah peut-être. La chasse, je peux
refuser. Le ski à Courchevel.
Ah Giscard, le ski à Courchevel.
Le ski à Courchevel.
Très bien.
Bon. Le ski à Courchevel. Torse nu, c'était quoi la planche à voile aussi, non? La photo, la fameuse
ça,
photo.
Ah exact. Giscard, la planche à voile.
Giscard faisait Pessard à Courchevel.
Ah bah, peut-être. Lille. Les gars, on a dit tout à l'heure, on a commencé à le dire, déception ce soir, manque de rythme.
Je pensais honnêtement, notamment pour les matchs contre Villa, qui m'ont beaucoup impressionné, que cette équipe-là, elle allait gratter la deuxième place. Mais on se rend compte d'une chose.
J'ai cru à ça aussi.
On se rend compte chose quand même. C'est pour ça que le fait que l'OM reste qualifié en Coupe d'Europe, ça reste quand même très important. Ça tend les équipes cette histoire. Et là, ce soir, bon, c'est pas le même rapport, mais en Angleterre, Liverpool ils se sont bananés incroyablement contre l'Atalanta. Ils ont pris 3-0 et depuis en championnat, ils gagnent plus un match. Donc ce lien, c'est le sport de très haut niveau, ces équipes, elles sont tendues par une pression, par une.
Tu découvres pas que le fameux deux matchs par semaine avec la Coupe d'Europe, c'est quelque chose qui pompe une énergie folle.
Oui, mais qui en même temps te tient en vie. C'est ça que je veux dire, Daniel.
Qui te tient en vie et qui en même temps te fait du mal.
Oui, mais si Lille était passé contre Aston Villa, peut-être qu'ils auraient fait un meilleur match à Monaco ce soir. Peut-être. Peut-être pas, hein, mais. Parce que, encore une fois, ils perdent 1-0 et ils ont un péno.
Moi, peut-être, j'ai pas la réponse. Tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois, ça donne des résultats, des comportements qui peuvent changer et qui, de toute façon, sont impactés par la rencontre des deux événements. Et quand en plus t'as pas beaucoup d'expérience de ce genre de choses-là, Lille quart de finale de Coupe d'Europe, ils ont pas l'habitude. L'engouement qui s'est créé autour, cette forme de pression, d'excitation, c'est évident que ça a un impact. Et comme on le dit, quand les équipes qui sont pas habituées arrivent en Ligue des Champions, la musique, l'engouement, les médias, ne serait-ce que l'emballage UEFA dans le stade, ouais, t'es un peu pris comme ça, il te manque le souffle, t'étouffes un peu, quoi. C'est obligé que ça a un impact, ça. C'est sûr.
Oui. Mais je pense que ça te tend aussi vers la performance, voilà.
Non, et puis ce soir on a quelques joueurs importants de Lille qui sont moins bien. Voilà, je sais pas, je l'attends David, je sais pas s'il vous a plu
ce soir. Non, il a été bon ces derniers temps.
On a beaucoup plus de Goodmunson, voilà, Ben Taleb revenait ce soir de suspension,
je suis dans le match. Attention, le joueur créatif de Lille aujourd'hui, c'est Goodmunson. Il y a un souci, quoi. Et c'est vrai qu'Yazice était sur le banc, Zegroba était sur le banc, Cabella était sur le banc. Bon, il y avait sans doute des bonnes raisons physiques.
Ils sont pas mauvais, les deux. Hein.
Mais non, ils sont pas mauvais. Mais enfin,
il fait tourner. Cabella a été titulaire au dernier match.
Oui.
Yoro a pas joué le dernier match.
Yoro pas terrible d'ailleurs ce soir sur la frappe de Fofana, le premier but. Il est pas beau, ce qu'il fait.
Il est loin, il n'est pas concerné. Il
vient pas et en plus il se retourne, il donne un quart de fesse pour un défenseur donner le cul.
C'est un joueur qui est encore tendre.
Quand on est entraîneur, je me souviens gamin et tout, c'était vraiment, jamais tu te retournes comme ça. Bon, il s'est pas retourné complètement, mais il a tourné un quart. C'est pas un bon match.
Pas un bon match, exactement. Faut quand même je vais me mettre sur le calendrier de Lille, parce qu'on le fait un peu pour tout le monde ce soir. C'est assez important de savoir.
C'est pas trop mal, le calendrier. Enfin, il y a le Lille-Nice, dernière journée. Mais ils ont des matchs abordables à domicile avant.
Bon. Je vous dis ça tout de suite. Parce que les Lillois, évidemment, avaient avant ce match une dynamique plutôt positive.
Ils vont à Metz, ils reçoivent Lyon, ils vont à Nantes et ils reçoivent Nice. Donc ils ont deux gros adversaires.
Oui, mais attention, aller à Metz en ce moment.
Oui, mais bien sûr, non. Mais de toute façon, les matchs, il va bien falloir. Tous ceux qui prétendent n'aller pas sur peine, faire qu'ils gagnent des matchs, c'est sûr. S'ils ont gagné aucun, si Brest ne gagne aucun match,
avant ce match,
ils seront pas en Coupe d'Europe.
T'étais pas là en début de semaine. On disait que la dynamique lilloise nous faisait penser qu'ils allaient finir dans les trois, alors que Brest, c'est plutôt l'inverse.
Ouais, mais moi, je continue. C'est pas parce que tu perds à 0 à Monaco que ça condamne Lille. Moi, je pense que c'est une équipe qui va être dans le top 3.
On reste là-dessus, d'ailleurs.
Mais ils ont été un peu décevants. Ils ont su être meilleurs, mais cette saison, encore une fois, en Ligue 1, à l'extérieur, il y a eu beaucoup de faux pas de Lille. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme notre auditeur nous parlait des faux pas de Monaco à domicile, le Havre, etc. À Lille, c'est le contraire.
Ils doivent être à 5 défaites.
À domicile,
dehors,
c'est la meilleure équipe de France, mais à l'extérieur.
Ils doivent être à 5 défaites dehors.
Ouais, ils ont perdu tous leurs matchs. Ils ont perdu une fois à domicile contre Reims, ouais.
Dans un instant, Paris au programme. Avant cela, sachez que nous avons un nouveau jeu sur RMC. Toutes les semaines, il y en a un nouveau avec plein de trucs à gagner. Vous savez que, bon, on est aujourd'hui le 24 avril. Vendredi sera donc le 26.
C'est l'anniversaire de ma sœur. Bon anniversaire.
Aujourd'hui?
Oui, Isabelle.
Oh. Bon anniversaire. Ouais,
c'est l'anniversaire de mon frère.
Eh ben voilà, Gilbert. Ben bon anniversaire.
Présentez-les. Hein.
Bon, la mienne, elle est plutôt en main, je crois pas de temps.
Ah ouais, bon, le mien aussi.
On sait jamais, ça sera mal entendu.
Donc, en fait, ça m'amène à vous parler de vendredi, qui sera le 26. Et ben, l'un d'entre vous pourra vendredi gratter l'un des tickets RMC et gagner jusqu'à 26 000 euros. C'est cadeau.
Tu sais que c'est déjà pas bien fait la promo là.
Ah bon? Bah si, c'est. Pourquoi?
Tu sais pourquoi 26?
Oui, 2 fois 13.
Ah, mais si t'expliques pas le coup du vendredi 13, ils ont élaboré les mecs du marketing pour faire un
truc. C'est un peu capillotracté.
Oui, je sais, c'est pour ça que je voulais.
C'est du marketing.
J'étais pressé.
Comme il n'y a pas de vendredi 13.
Se perdre dans cette explication.
Comme il n'y a pas vendredi 13, notre ami Greg qui s'occupe de ses opérations
a
créé vendredi 26.
Voilà.
Tu dis, 2 fois 13, 26. Ouais, ça tombe bien.
Et qu'il n'y aura pas de vendredi 39.
Je voulais que tu parles de notre ami Greg Louganis.
C'est vrai, il aurait pu parler le vendredi 39.
De plongeon. Et il a créé le vendredi 26 parce que de quoi 13.
Donc pour gagner ces 26 000 euros, vous me envoyez dès maintenant.
Quand t'es généreux, t'as
pas d'être. L'important, c'est de gagner 26 000 euros.
Voilà, vous envoyez dès maintenant le mot chance par SMS au 732-16. Chance par SMS au 732-16. Et si vous avez de la chance, vous serez tiré au sort pour gagner. Cet argent-là, 26 000 euros vendredi. Bonne chance à vous. Dans un instant, nous, on débrief PSG-Lorient. Enfin, Lorient-PSG, plutôt.
RMC, jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 4. Daniel Riolo est là, Stéphane Guy également. On est là jusqu'à minuit 30, exceptionnellement ce soir dans l'after, qui est arrivé des gros matchs de Ligue 1. Je rappelle que Paris aurait pu être champion hein, ce soir.
A été champion pendant
quelques minutes.
Avant que Monaco marque. Un bon moment quand même. Oui. À la mi-temps, Paris était champion.
C'est vrai. Il fallait que Monaco ne gagne pas. Bon, bah, on en repousse l'échéance, hein, peut-être à ce week-end.
Après, honnêtement, pour le PSG, être champion samedi au Parc. Face au Havre, qui est quand même c'est écrit, bon voilà, c'est quand même plus sympa que d'être champion à retardement parce que l'adversaire a pas pris les points dans l'avion entre Lorient et Paris ou le train ou qui sait le bus.
Oui, je
sais pas comment ils rentrent de Lorient. J'ose pas savoir. Je veux pas savoir.
Oh ben non, avion. Lorient, c'est pas train. Oublie. Luis Enrique a fait une compo Luis Enrique avec un turnover habituel, des jeunes lancés également aujourd'hui. Enfin, lancés, on les avait déjà vus.
Oui, mais là, ça justifie quand même, Gilbert. Oui.
Je dis ça, c'est pas pour critiquer.
Non, mais dans la période actuelle,
c'est pour lancer le débat.
Autant des fois, voilà, on est surpris. Là, bon, après, quand il fait tourner, l'attaque, c'est Gonzalo Ramos, Mbappé, Dembélé. Donc,
oui.
Pour l'adversaire, c'est un peu gênant. Et
les deux qui n'avaient pas joué contre Lyon.
Voilà.
Surtout qu'à l'arrivée, ça donne.
Enfin là, ils ont un match de semaine.
On a connu des périodes où les matchs, on va dire, un peu en bois, dans des périodes où on va dire que les pensées sont ailleurs. Et en ce moment, au PSG, les pensées sont ailleurs. On a connu des matchs où tu t'emmerdais, où il se passait rien, où soit tu faisais un pauvre nul, soit t'arrachais une victoire, mais bon, t'avais passé un sale moment. Là, je suis désolé, tous les matchs du PSG, tu passes un bon moment.
Ouais.
Cette équipe, elle a un super état d'esprit. Elle ne caviarde aucun match. Tous les matchs sont joués à fond. Bon, il fait jouer les deux gamins. Bon, bah les deux gamins, ils doivent être très contents de jouer. Hein. Ils ont l'air un petit peu perdus parfois. Bon, ils sont là pour grandir et pour apprendre.
Les commentateurs, je sais pas si
ils sont là. Je crois que c'est plutôt Zagué, mais bon.
Moi, je dois Zagué.
Ils apprennent hein, parce qu'ils sont vraiment jeunes et tu vois bien qu'ils sont pas complètement finis les deux. Mais j'imagine que ça leur fait un plaisir dingue. T'sais, ils ont quand même joué le match où à l'arrivée, ça pouvait être le match du titre. Bon, c'est bien. S'il les fait jouer et que la prestation, elle est pas bonne et que tu t'es ennuyé, tu dis ouais, qu'est-ce qu'il a été cramé, ces deux jeunes. Alors, tu peux aussi te dire, t'imagines à quel point un mec comme Soler recule dans la hiérarchie. Parce que c'est vraiment un match où lui, il doit démarrer. Il ne démarre même pas. Et au poste qu'il occupe, c'est, comment il s'appelle, Mouyelé.
Seni Mayulu.
Mayulu. C'est lui qui démarre. Bon, ok, ça veut dire que vraiment. Et pareil pour Mukiele.
Mm. Lui, ça fait 2-3 fois qu'on le voit quand même, Mayulu. Là.
Oui, et Mukiele sur le banc, effectivement.
Mukiele, a priori, tu te dis, vu le peu de matchs qu'il a fait, il va quand même démarrer titulaire à la place du gamin. Donc, je pense qu'il ne les tient pas en haute estime, les deux. Bon, peu importe, tout ça, c'est du détail. La prestation d'ensemble, elle est très bonne. Mbappé n'avait pas joué, il avait plutôt du jus. Il met un doublé, il fait un très bon mouvement sur la gauche pour donner un but à Dembélé. Dembélé met deux buts. Alors là,
oui, on pourra plus dire que Dembélé ne marque pas. Là,
si
maintenant,
Dembélé, dans le Money Time...
Entre la Ligue des Champions et là...
Je devrais demander à Oussem et Jérôme, sur les 6 premiers mois jusqu'à décembre, quand on faisait les paris, le nombre de fois où, parce que la cote était élevée, je misais sur Dembélé. Putain, j'en avais marre de prendre des murs. J'ai dit,
il va bien finir par marquer. Fameuse blague d'Embélé a mis moins de buts que Neymar, qui en avait marqué deux en match amical.
J'ai dit, il va bien finir par marquer. Alors je misais. Bon, bah là, maintenant, je vais pouvoir peut-être m'y remettre. Parce que, si sur cette fin de saison, enfin, ça devient le plus important, il commence à cadrer les frappes, c'est tout bénef pour le club. Hein.
La façon dont Lorient défend sur le premier but de Dembélé, pour une équipe qui joue sa vie en Ligue 1. Oui. Là, ça fait très peur.
Tout à fait. Je me suis fait la même réflexion. Je me suis dit,
La porte, il a ouvert la porte. En fait. C'est un mauvais jeu de mots, mais je suis désolé, mais je ne sais pas comment il peut se comporter comme ça, la défense centrale. C'est incroyable, incroyable.
Sam est avec nous, 32-16. Salut Sam.
Salut, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Stéphane.
Bonsoir Sam.
Et salut Sam. C'est ta première dans l'after ?
Oui, tout à fait. Ma première.
Diminutif de Samuel, j'imagine.
Exactement.
Ce Sam tout court.
Oui, ça n'a pas de sens.
À part dans Scooby-Doo.
Si, Sam, il y a des Sam qui existent.
Sam, c'est un diminutif.
C'est souvent des chiens.
Voilà, c'est un bon chien, sinon.
Merci, c'est sympa pour ça. T'écoutes l'after depuis combien de temps?
C'est le diminutif de Samuel.
Samantha, c'est cool. Samantha chez les filles.
Ça fait un peu ouais. Genre, t'es un peu US, t'es un peu cool et tout, tu vois, Sam.
Ouais, c'est vrai.
Je sens qu'avec les meufs, ça marche un peu mieux, d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai.
Donc, du coup, je disais, Sam, depuis combien de temps t'écoutes l'after?
J'ai tout compris.
J'écoute l'after depuis des années. Bah, là, j'ai 32 ans. Je commence à me faire vieux, mais je pense que j'ai écouté l'after depuis.
Disons que si toi, tu commences à te faire vieux, alors nous.
T'as écouté quand t'as commencé quand t'étais ado?
Ah ouais, j'écoutais depuis que je suis fan du PSG, depuis que je suis fan de foot, donc ouais, ça fait un bon moment. Ouais.
Bon bah écoute, merci pour ta fidélité, Sam. Bon, on t'écoute.
Justement, moi, si je vous appelais ce soir, c'était pour émettre une petite critique qui, j'espère, sera constructive. Dernièrement, j'étais un peu déçu de la ligne éditoriale de l'émission sur la thématique du PSG. Donc, ça n'a pas l'air d'être trop le cas ce soir. Je trouve que ce soir, on reprend un petit peu un bon chemin. Mais je trouve que les acteurs du PSG récemment étaient assez redondants parce que je pense que vous avez fait tous le tour du bonhomme Luis Enrique. On a eu l'avis de Daniel, on a eu l'avis de Stéphane, on a eu l'avis de Flo, enfin de tout le monde. Mmh. Et voilà, moi je voulais retrouver mon after qui mettait en avant les éléments tactiques, qui me parlait de circuit préférentiel. En plus, on a un coach, à tort ou à raison, qui s'en fiche complètement qu'on comprenne son football tactiquement. Et ben moi, je comptais sur des experts comme vous pour m'expliquer, plutôt que de me relancer l'éternel débat à Luis Enrique, Mbappé. Par exemple, après la qualif, d'ailleurs, je crois que c'était vous trois sur le plateau après la qualif contre Barcelone.
Non, moi j'étais pas là.
Non, c'était Jérôme Bretagne qui était là.
Ouais. Ah, c'était Jérôme Bretagne, ouais. Daniel notamment a pas arrêté de répéter. Stéphane le disait aussi souvent que quand on met l'équipe type, enfin l'équipe que tout le monde a en tête, hein, moi le premier, hein, c'est facile. Après, bon, j'imagine qu'il suffit pas d'avoir.
Ah, j'ai pas dit c'est facile, j'ai dit c'est mieux.
Oui, c'est mieux. Mais je suis d'accord avec toi.
Et pour le débat, moi j'y peux rien si il y a un mois. J'avais dit que je voulais plus aucune polémique et que c'était terminé et qu'à chaque fois on ne fait que me relancer là-dessus.
Ah mais je suis d'accord. Par exemple,
à chaque fois, t'as des gens qui veulent venir me rentrer dedans, me dire ceci, me dire cela, sans arrêt. Moi, j'avais dit, on arrête, stop.
Ouais, je sais parce que
chacun a donné son avis sur la question. En plus, moi, ça n'était qu'un avis qui tournait principalement autour de la com et de la façon qu'il avait de parler des gens et qu'on avait le droit de pas aimer cette façon de faire là et que au niveau du jeu, c'était ça tournait pas principalement autour de ça. Donc non, bon, écoute,
je suis d'accord,
si à chaque fois on en reparle, on m'en reparle ou hein.
Non, mais justement, voilà. Moi, je veux pas relancer le débat ce soir. Bien loin de moi cette idée. Au contraire. je devais passer lundi à la base et justement on devait avoir ton avis sur la dynamique du PSG. J'étais impatient de l'écouter parce que bien politiquement parlant, tu sois très clivant, je te trouve toujours très pertinent dans ce que tu dis.
Moi sur la dynamique, je n'ai pas changé un seul mot depuis le mois de septembre. Je me souviens du soir de Dortmund, on est au Parc des Princes avec Jérôme. Je dis, j'ai douté de ce milieu de terrain, que je trouve un manque de créativité. Je l'ai vu jouer ce soir-là. Ces trois joueurs m'ont plu. Et j'ai dit, il y aura une alternative probablement avec Fabian Ruiz, mais j'aime bien ce trio-là. J'ai même dit, ça avait fait bondir les gens, je regarde les milieux de terrain en Europe, je disais, bon, ok, le milieu de terrain de City, c'est au-dessus, il y a des milieux de terrain dans des équipes, hein, mais je suis étonnamment surpris et je vois une grosse progression possible pour ces trois hommes-là. J'arrêtais pas de dire, quand je regardais les joueurs, aller saluer le public. Ce qu'on voit en ce moment, on ne l'a pas vu depuis des années. C'est formidable, l'état d'esprit, le sens du collectif, on va vivre une très belle saison. Je n'ai jamais changé sur ce point. Mon seul braquage a été sur la com. Je n'aime pas les gens qui se foutent de la gueule des gens. C'est tout.
Moi, je suis d'accord avec toi.
C'est tout. Et c'était le discours autour d'eux. C'était le discours autour d'eux. Je ne comprends pas des gens qui sont payés par les médias. On l'a expliqué 100 fois, ce truc-là. Je trouve que c'est pas bien. C'est pas bien de répondre de cette façon aux gens qui indirectement participent à la vie du football français.
Mais voilà. Moi, je suis d'accord. Mais c'est vrai que moi, je comptais aussi sur vous pour m'expliquer aussi les aspects tactiques, par exemple, contre le Barça, les projections de Fabian Ruiz. On en a pas du tout parlé, ou positionnement hybride de Achraf Hakimi. Enfin, voilà, il y a plein de points, je trouve que.
On a souvent évoqué ça. Maintenant, le soir du match
retour. T'en penses pas de Ruiz, toi, pour enchaîner d'ailleurs là-dessus? Parce que là, ce soir encore, il joue.
Il est pas génial ce soir encore.
Et moi,
j'aime bien, c'est qu'on aime bien me ressortir. Ouais, mais t'avais dit ça et c'était pas comme ça et tout. Parlons de Fabian Ruiz, moi, j'ai fait partie de ses défenseurs. J'ai même dit un soir, quand il avait joué un match devant la défense, son allure, tu sais, il a une belle allure, tu sais, il est un peu tout droit comme ça, très très grand, un peu élancé, il a une très belle allure. Et j'avais dit, ce soir, il m'a fait penser à Thiago Motta. J'ai pas dit qu'il était l'équivalent de Thiago Motta, j'ai dit, il m'a fait penser à. C'est dire si j'ai toujours cru que ce gars-là pouvait apporter quelque chose, que j'avais envie de voir chez lui une marge de progression, que devant les défenses à Naples, il y avait eu une période où il avait été bon, résultat, je n'ai jamais revu ça assez souvent au PSG et je le trouve plus souvent décevant. Mais néanmoins, dans le collectif, comme il donne tout à l'image de tous les autres joueurs, quand on a un qui est bon ou pas bon, le collectif prend toujours le dessus, même sur les performances individuelles. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif qu'on n'a pas vu sur les autres années au club, surtout sur les deux dernières où je trouve qu'on a quand même beaucoup souffert. Et j'étais le premier à dénoncer et à me lamenter du niveau collectif qu'affichait cette équipe. Sur cette année, de ce côté-là, je n'ai rien à dire. On peut parler. Moi, ce que j'ai contesté, c'est qu'on fasse passer des gens pour des génies quand ils n'en sont pas forcément. Moi, j'y fie les idées de génie sur le turnover. Luis Fernandez, le turnover, il le faisait en 1995.
Non, mais je suis d'accord.
En fait, c'est simple. C'est une idée de Johan Cruyff, développée par tous les Catalans et par tous ceux qui se sont inspirés de cette méthode. Luis Fernandez s'est inspiré également de Johan Cruyff. Lui ne s'en est jamais caché. Lui, il a dit, bah oui, quand il met Daniel Bravo devant la défense, c'est Guardiola, c'est le Guardiola de Cruyff.
Moi, je trouve que ça ressemble pas à Luis Enrique. Daniel Bravo devant la défense, il l'a installé, il l'a positionné, c'était
comme récurrent. Cruyff avait fait Guardiola.
C'est pas de dire, je le mets deux matchs, le troisième match, il est arrière gauche, le quatrième match, je vais l'essayer là. C'est pas du tout ce qu'on a vécu avec Luis Enrique.
Attends, là, toi, tu as.
Moi, je défends pas Luis Fernandez.
Toi, t'apportes un élément différent. Moi, je dis que, il y a pas.
Si Luis Enrique au match aller nous met Zaïre Emery latéral droit parce qu'Hakimi est suspendu, ben on dit chapeau parce qu'il l'a essayé, il l'a préparé pour ce poste-là. Il nous sort, qui est-ce qu'il a mis latéral droit? Marquinhos. Moi, quand on m'explique que Luis Enrique est un génie suite à la qualification contre le Barcelone, alors que la qualification de Barcelone, elle tient d'abord et avant tout au fait que le Barça a joué à 10 contre 11, faut quand même arrêter de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, quoi.
Bon, maintenant, effectivement, Sam.
C'est pas parce que t'as pas apporté quelque chose.
Mais
la façon dont il a traité Mbappé, moi, je l'ai dénoncé, je continue de le dénoncer. Bon, je pense que il a fait de la basse politique. Il a été le petit télégraphiste de son président et qu'il n'est pas plus courageux qu'un autre entraîneur.
Alors sur le match de ce soir, Sam, qu'est-ce qui t'a plu, toi, ou pas plu?
On a perdu Sam.
Voilà, du coup, j'enchaîne parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs. Allô là. Ah, tu es là, Sam. Oui, je te disais.
Oui.
Du coup,
oui.
Sur le match de ce soir, qu'est-ce que t'as aimé ou pas aimé, toi?
Moi, dans l'ensemble, la mentalité, le fait qu'ils se donnent à fond du début à la fin, on sent qu'ils ont envie, on sent qu'il y a les objectifs, ça c'est quelque chose qu'on peut pas enlever à cette équipe, c'est que vraiment ils ont cette mentalité de vouloir tout donner jusqu'au bout. Bon, malheureusement, on n'est pas champion ce soir. Après, ça fera les pieds au président du Havre qui nous critiquait contre Clermont d'avoir mis l'équipe B. On va jouer contre samedi, bon, on va se donner à fond pour avoir le titre. Il sera bien content comme ça au moins. Comme ça au moins, il pourra pas critiquer. Comme quand on fausse le championnat, c'est bien fait pour lui, je pense.
On s'en fout de ça, personne ne fausse le championnat. Le PSG fait sa saison, ils n'ont pas à soucier du destin des autres. Il n'y a que les bidons qui racontent ce genre d'ânerie, là, c'est insupportable, ça.
Ouais, je suis d'accord.
Ils ne sont pas là pour mettre une équipe en fonction de. Oh, chacun est maître de son destin dans une saison. Le PSG sera champion et pense à son parcours et fait en sorte d'arriver le plus en forme possible sur les deux matchs contre Dortmund.
J'espère que l'OM se maintiendra.
Et le reste, voilà. on a même pas.
On déplaise à Sam.
Non, mais moi,
la Normandie souhaite que là se maintienne, Sam. Voilà.
C'était une petite pique à son président, mais bon, dans l'ensemble, moi, j'espère, voilà, que j'ose rêver maintenant qu'on va peut-être gagner la Ligue des Champions et qu'on va voir Daniel faire une after avec les 13 de Barcola et pas réussir à faire sa chronique parce qu'elle lui tombe dans les yeux. Et voilà.
Merci, Sam.
Merci beaucoup.
Salut, à bientôt. Rappelle-moi.
Il y a plein de gens sur le chat comme ça qui. C'est sûr que quand on connaît pas l'histoire du foot, on a du mal, on croit qu'un mec, on met des tampons génie sur des gens et tout. Les gens, oui, ne savent pas ce que Luis Fernandez a fait les deux ans où il est au PSG, la première année en Ligue des Champions, puis la deuxième année en Coupe des Coupes.
Ils avaient 10 points d'avance à 10 journées de la fin, ils ont trouvé le moyen de ne pas être champion. C'est aussi Luis Fernandez.
C'est l'année d'après.
C'est ça la vie d'un entraîneur.
Bah, c'est ça.
Il a des fulgurances, il a des moments où il n'est pas inspiré du tout.
Sauf que l'année d'avant,
il avait une équipe extraordinaire.
Ce qu'il fait en Ligue des Champions et quand il élimine le Barça, c'est très fort, même tactiquement.
Bien sûr, même tactiquement.
La façon qu'il a de modifier l'équipe et tout. Quand quelqu'un le fait aujourd'hui, on dit ouais, il a modifié l'équipe, il a changé. Lui, il y a 30 ans, ça se voyait aussi. Donc arrêtons de coller des tampons de génie à tout bout de champ.
Et il y a 30 ans, t'avais à Paris une équipe aussi géniale avec de très grands joueurs
et une concurrence en championnat qui n'aurait
pas grand chose à envier à ceux d'aujourd'hui.
Ouais.
Dans un instant, on parle de Colomoigny.
Et une concurrence en championnat, c'est vrai qu'elle n'était pas la même.
Exactement. Beaucoup de monde veut en parler. Un mot de Lorient et puis le reste de l'actu du jour.
Ils n'avaient pas 10 fois le budget du second du championnat à l'époque.
Encore 10 minutes ensemble dans l'After. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit 30, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 20, Daniel Riolo et là Stéphane Guy. Et là, on termine l'analyse du match Lorient-PSG. Oui, sur l'évaluation, il faut qu'on parle de Colomboigny parce qu'il y a beaucoup de supporters parisiens qui, sur Direct Studio, là, veulent en parler et qui disent qu'ils commencent à être très inquiets pour Colomboigny qui fait une entrée perte de confiance totale.
C'est une perte de confiance absolue. Ouais. Moi, je dis que quand c'est trop gros.
Il y a un loup.
Oui, parce que à part si vraiment le mec est un bidon complet et tout, mais là on n'est pas du tout en train de parler de ça. Quand il a cette passe en retrait, ce ballon qui lui arrive, où soit il reprend en première intention et il frappe, soit il contrôle parce qu'il a vraiment le temps large de contrôler. Les deux options sont bonnes, mais en l'occurrence quand t'as le temps, bah sur le coup et contrôle, c'est ce qu'il a voulu faire. Mais là il a ses pieds de métal là. Le ballon, il est arrivé, c'est même pas un contrôle américain qu'il a fait, quoi. C'est affreux, quoi. Et là, quand tu fais ça, c'est que t'es fracassé de confiance. C'est pas possible. C'est pas possible. Il est en
club trop
confiance.
Gros pour lui.
Je sais pas. Il peut. Après, techniquement, il est un peu défaillant. Il a pas une technique extraordinaire. Donc, il y a peut-être des styles de jeu qui vont lui correspondre plus. Mais il est en sous-confiance, là. C'est certain.
Bon, je sais pas si Stéphane, tu veux rajouter un truc.
Si, non, je suis d'accord. Enfin, quand on a vu un joueur comme Colomboigny depuis 4-5 ans évoluer, qu'on l'a vu en équipe de France, etc., on sait bien que c'est pas un tocard, quoi. Voilà. Donc, effectivement, il y a un problème. Mais comme je pense tout à l'heure, Daniel parlait de Solaire. Voilà, je pense que Solaire, peut-être qu'il s'y retrouve un club en Espagne, etc., dans un autre environnement.
Moi, je suis sûr que c'est pas un mauvais joueur.
Un autre entraîneur, voilà.
Il est peut-être pas fait pour un top club, mais pour un club en Espagne, tranquillement en Liga, ce sera un des meilleurs joueurs de l'équipe, hein, comme il l'était
après,
d'ailleurs.
Après, le problème avec Paris, c'est qu'à un moment donné, tu confrontes les coûts et la performance, et là, évidemment, ça devient catastrophique, quoi. Parce que Colomboigny, se dire qu'ils ont mis ce pognon-là, ou même Solaire, hein. Solaire, il y a eu 40 ou 50 millions, un demi sur Solaire.
Bon,
Je te dis, c'est du délire, quoi.
Quand on dit, je reviens pas sur le rôle de l'entraîneur, mais parlons pour une fois du rôle du directeur sportif, parce qu'il y a Colomboigny, pour le coup, c'est un choix El Khelaïfi, c'est pas un choix Luis Campos. Le fait d'avoir nettoyé le vestiaire a beaucoup aidé l'entraîneur, je l'ai déjà dit hier soir, et il y a quand même eu des joueurs qui sont des vraies bonnes pioches, quoi. Et un vestiaire totalement sain maintenant, où même quand un joueur est en dessous, il est pas largué dans le groupe, quoi. On le garde dans le groupe. Et
non, mais c'est ça le vrai changement du Paris Saint-Germain. Il est là.
Bien sûr,
il est là. C'est que si tu mets Galtier avec cet effectif-là, il fera plus performant qu'il l'a été l'an passé. Et si tu mets Luis Enrique avec le vestiaire de l'an passé du Paris Saint-Germain, peut-être qu'il aurait eu les mêmes difficultés.
Je pense néanmoins que.
Même si je pense
qu'ils ne sont pas dans la même catégorie,
Non, mais c'est pas ce que j'ai dit.
Autant, je n'aime pas
les Champs-Élysées entre les deux non plus.
Oui, voilà. Mais.
Non, je ne crois pas non plus.
On ne parle pas de la même chose non plus quand même.
Je pense qu'il est champion quand même, avec une équipe face au PSG.
Je pense néanmoins qu'il y a un entraîneur qui est d'un tout autre niveau quand même.
Lorient, les gars.
Même pas 20 millions, ils mettent Solaire. Ah bon.
Lorient file vers la Ligue 2.
C'est un SMIC.
Pardon.
Lorient file vers la Ligue 2.
Mais non, Gilbert, ils ont perdu contre Paris.
Bon, deux points de retard sur le Havre.
Ils sont pas invités. Voilà, mais leur champion. Il y a quatre matchs.
Ils sont dans la baston avec Metz.
Ce que disait Bodmer ce matin dans l'équipe, je partage à fond. C'est-à-dire que ces clubs-là, de toute façon, ils savent Lorient, Metz, oui. Le Havre, oui. Clermont.
Mathieu Bodmer qui disait, en gros, on est à notre place.
Eh oui, ils savent qu'ils vont battre. Après, ils ont peut-être, à un moment donné, forcément, qu'ils ont dû croire qu'ils n'y seraient pas, mais ils ont été rattrapés par la réalité de leurs moyens, de leur effectif. Voilà, quand tu vois comment Lorient défend et comment Lorient a du mal à marquer un but, tu comprends que Lorient joue le maintien, quoi. Mais ils sont pas condamnés ce soir. Et puis il y aura un match qui va devenir un des grands moments de la saison française. Il l'a déjà été, c'est ce barrage, quoi, parce que ces clubs-là vont tous courir après la place de barragiste.
Exactement. Rappelons que l'année dernière, on n'a pas eu de barrage, parce qu'on passait de 20 à 18.
Oui.
Donc retour des barrages.
On peut avoir un Caen Le Havre par rapport au barrage. C'est possible.
Oh.
Bah oui.
Alors que tout le monde voyait un Lyon Saint-Etienne il y a
voilà,
six mois.
Voilà. Tu vois, on peut aussi avoir un Rodez Nantes. Tu vois.
Oui, c'est vrai. Rodez et Paris FC qui revient dans la course.
Ah, qui a perdu hier.
Ah non, si Saint-Etienne n'est pas dans les deux premiers.
Et Angers.
Saint-Etienne sera dans le barrage. Ils sont bons là, ils sont dans la bonne dynamique et tout. Ils vont l'accrocher cette place.
On verra ça. Il nous reste quelques minutes pour l'info du jour. Bah tiens, Auxerre va monter.
Ouais.
Et il s'est passé un truc à Giroud là. Je sais pas si vous avez vu, mais Giroud, 85 ans, il parle plus beaucoup, mais quand il parle là, il balance.
Le Figaro.
Dans le Figaro, exactement, il a donné une interview. Il a parlé d'un match d'Auxerre en 2005, Coupe de l'UEFA contre le CSKA à Moscou. Il se trouve que j'étais à ce match à Moscou.
C'est le match avec Wagner Love.
Ouais. Match avec Wagner Love.
Absolument.
Exactement.
Je me souviens très bien.
Giroud, je cite, l'arbitre était acheté. Dit Giroud. Au match retour, je vais vous raconter l'anecdote, dit-il, parce que après le match aller, j'avais déjà des suspicions. Et là, j'ai demandé, donc on est au retour à Moscou. Hein, et là, j'ai demandé à un gars de chez nous d'aller fouiller le sac des arbitres pendant le match. C'est déjà le mec, t'imagines, il est à Moscou, il va dans le vestiaire de l'arbitre. Bon, bref. Et là, il revient. Il est blême, il me dit, il y a des montres superbes avec des rubis dans les sacs.
Des montres serties de diamants.
Et là, Giroud dit, j'avais 10 minutes pour prendre la bonne décision. Et là, c'est intéressant, parce que Giroud dit, là, si je décide d'appeler les flics et les instances, on les dénonce, je fais virer les quatre arbitres allemands, et moi, dans ce cas-là, je deviens le gars à l'origine du scandale. Et du coup, je suis plus la personne qui a fait 894 matchs en Liga et porté la JR en Europe.
La fin de l'histoire est un peu bizarre. Je vois bien qu'il y avait des histoires. Il y en avait des histoires.
Ah, dit, au final, j'ai rien dit. J'ai pas pris la bonne. J'ai pas choisi la bonne solution.
Tu t'en souviens de ce match?
Non, mais ça veut dire qu'en gros, il a choisi le truc pour son image. Mais... Il s'est dit, ouais, mais après, les gens vont retenir que je suis une sorte de Jacques Lasman.
Non, mais ça, par contre, ce raisonnement-là, c'est du Giroud. Ça, c'est du Giroud.
Ah, tu trouves?
Ah oui, ah oui.
Il voulait qu'on retienne bien. Il voulait pas que ça vienne ternir son.
C'est une réflexion qu'il a pu avoir.
Gilbert, tu t'en souviens de ce match? J'ai pas l'impression que Moscou vole grand-chose. Ils sont supérieurs à Auxerre.
Déjà, c'était un match, il faisait moins 54. Déjà,
mais c'est l'aller ou le retour qu'il a. C'est l'aller.
Mais même au retour à Auxerre.
Au retour, il y a un pénalty qui n'est pas sifflé pour Auxerre quand même, au retour.
Alors ça, je ne me souviens plus des circonstances exactes, je t'avoue, mais voilà, c'était
l'hiver. Au retour, Auxerre gagne 2-0. Hein. Et Giroud dit à l'aller, il y a un pénalty qui est sifflé qui n'y est pas pour Moscou. Ah. Et au retour, il y a un pénalty qui n'est pas sifflé pour nous qui y est. Donc ça aurait équilibré un peu le truc.
Bon, bref, voilà. Non, alors attendez, parce que là, l'aller est à Moscou.
Est à Moscou, oui. Ils perdent 4-0.
4-0, et le retour est à Auxerre 2-0.
Et ils gagnent 2-0.
Voilà. Moi, j'étais au match.
Moi, ça me permet simplement de rappeler à nos jeunes auditeurs qu'on a eu un entraîneur en France dans une ville grande comme Alençon qui régulièrement jouait la Coupe d'Europe et jouait pas la Coupe d'Europe.
40 000 habitants à
Alençon. L'aglo, c'est 50 000 habitants.
Ah ouais,
25 000 habitants. Il y a une aglo à Alençon.
28, bah quand même, oui. Ah, mais peu importe. Mais je veux dire, mais moi, j'ai toujours regardé ça comme ça. Je me suis dit, comment ce serait possible de voir le Real Madrid ou Ajax Amsterdam à Alençon? Bah, c'est ce que Giroud a fait à Auxerre, qui est une cadeau d'atout, etc. Mais, et surtout, jouer la Coupe d'Europe, puisque c'est des débats qu'on a régulièrement, mais, c'était des parcours tous les ans.
Ah, évidemment.
Il n'y a quasiment jamais eu d'élimination d'Auxerre au premier tour contre Helsinki ou Speicht. Quoi, ça n'existait pas.
Mais pourquoi le mec qui est allé dans le sac, il a pas tapé les montres? Au moins ça pour se venger, quoi.
Ouais, puis Giroud, il dit pas que voler les voleurs qu'il a fait aux adversaires qui volaient la Bédéchamp.
Ouais. Voler un voleur, c'est pas vraiment
quand
du vol.
Quand il mettait le chauffage à fond dans les vestiaires, quand il.
Exactement. Quand tu donnais des ballons pourris pour l'échauffement.
Mais c'est un personnage, c'est extraordinaire, Giroud.
Tiens, une information, Stéphane, que je voulais qu'on partage ce soir, parce qu'on en a déjà débattu ensemble.
Ah.
La Fédération Internationale de l'Automobile et la FIFA réfléchissent à quitter la France.
Oui, j'ai vu ça.
Et pourquoi?
Pour la
ils sont
fiscalité.
Pas contents parce qu'il y a trop d'impôts.
Ouais.
Donc, moi, je connais pas la situation de la FIA, parce que je m'intéresse pas trop à l'automobile.
C'est pas qu'il y ait trop d'impôts, c'est qu'ils veulent pas d'impôts.
Ouais, c'est ça, mais alors, la FIFA.
C'est pas qu'ils en veulent pas un moyen, hein, ils en
la
veulent
FIFA,
pas.
Excuse-moi, ils font des bénéfices incroyables. Ils font appel en permanence aux bénévolats, les mecs, pour leur grande compétition. C'est quand même fantastique. Ils pourraient payer, en fait. Le mec qui va garder le parking, plutôt qu'il soit bénévole, ils pourraient le payer.
Bien sûr.
Et en plus de ça, ils veulent pas payer d'impôts, les mecs. Ouais. Mais cassez-vous! Rentrer en Suisse.
Quand tu accueilles un grand événement, tu n'as pas le grand événement, style l'euro en France, s'il n'y a pas eu une loi votée au préalable qui exonère de tout impôt les bénéfices du grand événement.
Bref, voilà.
Et pourquoi ils ont du mal aujourd'hui à trouver des pays pour organiser leurs événements, à part les pays improbables? C'est pour des raisons.
C'est terminé, je vous félicite. Même pas un euro dans la cagnotte ce soir, bravo Daniel.
Dans Daniel ce soir.
Mais, enfin, j'aurais pas faire ça parce que si je commence à le féliciter parce qu'il a pas dit de gros mots, c'est pas bon.
C'est vrai. Non, c'est terminé.
Parfait.
J'annonce jusqu'à la fin de la saison, il n'y a plus rien.
Plus un gros mot ?
Non.
On va le faire déraper.
Parce que déjà dès demain, tu craques.
On va le faire déraper.
garde ta feuille au chaud, tu verras.
Jérôme Thomas parie sur 22h15 demain soir.
On fait un pari sur combien de jours pour que tu annules 3/4 de la dette ?
Au moins un mois.
Il est en train
un
de
mois pour sortir de la dette.
Ah oui.
Bah c'est
oui,
c'est très très dur là.
Ah bah, jusqu'à là, la fin très, de saison, c'est quand la dernière journée de Ligue 1 20 mai.
Ah bah non, mais nous, on est là, on s'arrête jamais, nous.
Non, mais dernière journée de Ligue 1.
Ah bah, ça fait un mois. C'est
annule la dette.
19 mai.
Ok. Et t'annules la dette.
J'annule la dette.
Ok, c'est parti. C'est vendu.
Non, j'ai pas, on a dit qu'on a réduisé la dette. On n'a pas dit qu'on l'annulait. Trop facile. Je l'ai réduit de 60%.
Ok.
Allez, à demain soir, 20h, dans Génération After avec Habib Bey. Et à 22h, on sera là avec Willy Sagnol. Bonne nuit à tous.
RMC, l'After Foot.